Cette semaine, dans le service après-vente de la F1.
Les chroniqueurs battent un record.
Lewis Hamilton aurait envie de changer d'air.
Le Mexique, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et l'Autriche veulent intégrer le calendrier.
Le Grand Prix du Canada est perturbé par les manifestations.
L'incertitude des courses fait encore et toujours débat.
Red Bull vers son trou.
Shinji se fâche avec la Belgique.
Et Ben nous parle de son tapis.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Nous allons revenir cette semaine sur toute l'actualité de la Formule 1. Pour m'accompagner comme d'habitude, bonsoir Dino.
Bonsoir Shady.
Ça va?
Ça va toujours moi Shady.
Dino, qui sont nos chers chroniqueurs cette semaine?
Alors de mémoire, nous avons à notre gauche Steph Core.
Bonsoir
à tous. Et à notre droite, Ben.
Bonsoir.
Alias Benoît, alias Monsieur Frykin, alias l'auteur de la chronique Pit Stop.
Qui peut donc
l'excellente bien... chronique Pit Stop, tu veux dire.
Ouais, qui peut non, donc bien mais... confirmer qu'il est vivant, hein, parce que ça fait plusieurs semaines.
Hein. Oui, c'est vrai, Ben, hein. Tu es vivant.
Ouais, non, mais... je vis toujours. J'ai survécu à l'incendie de chez Williams. Tout va bien.
Oui. Alors messieurs, si on accepte le travail, Game of Thrones, l'E-Cube et les incendies, ça s'est bien passé cette semaine? Oui, vous n'avez pas compris cette phrase, mais nous on l'a compris.
Faut savoir que le début d'émission a été long.
Une belle introduction, oui, c'est clair.
Bah oui, ça a été cette semaine.
Ça a été?
Ouais, super, mon travail m'enchante. Aidez-moi, sauvez-moi de là, sortez-moi de là-bas, pour un moment. Pour information, je suis arrivé à Flin.
Ah bah, t'as quitté une ville où il y avait un circuit? Ah, une ville où il y aura peut-être un jour un circuit, mais on sait pas, parce que les écologistes sont dans le coin.
Ah, mais tu as des courses, hein, entre les scooters, les voitures de police, les ambulances, les pompiers. Ah, je peux faire du chronométrage, hein, il file.
Alors, ami de Flin, bonjour.
Oui. Voilà. Enchanté.
Cette merveilleuse région grise.
Et là, c'est quand les 24 heures de Flin, c'est quand ça?
Messieurs, passons à la première rubrique de notre émission, le quiz. Alors à noter qu'au score, eh bien nous menons toujours, bien sûr, c'est normal,
ouais.
Mais on mène plus que 12 à 11, et ça c'est moins normal.
Ça se resserre.
Alors c'est pas que ça se resserre, c'est juste que Dino est un incapable, mais ça c'est un autre
problème. Oh mais je t'emmerde. Oh non, je dirais une fois par émission, Shinji. Une fois par émission, je lui dirai le mot magique. Et vous verrez, à la fin, il va le réclamer. Vous verrez, un jour il dira, tiens, aujourd'hui tu me dis pas, je t'emmerde.
Alors messieurs les chroniqueurs, c'est à vous cette semaine de nous poser une question.
Ben?
Voilà, c'était la question.
Trouvez la réponse.
Ah ouais, t'as pas de question, Ben?
Si, j'en ai une petite, mais si t'as bossé sur une, vas-y, fais-toi plaisir.
Non, bah la mienne, non, elle est quand même vraiment, vraiment simple. Je l'ai essayé, on me l'a trouvé en 40 secondes, donc j'ai fait, bon, non, celle-là est pas bonne.
Bon, nous allons donc tenter la mienne. Je me suis dit tantôt, j'ai pas envoyé un mail à Steph Core pour voir s'il avait pensé à une question, donc il faut vite que je trouve un truc au cas où. Donc c'est une question qui est un peu en rapport avec le dernier SAV. Parce que vous avez parlé du Grand Prix du Canada et des différents circuits qui ont accueilli cette course. Alors, le premier Grand Prix, c'est donc en 1967. Et pendant les 4 premières années, il y a eu une alternance entre Mosport Park et le Mont-Tremblant. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi?
Parce que pour qu'il y ait une épreuve en territoire francophone et une épreuve en territoire anglophone.
Ouais, ce que j'allais dire.
Ouais, moi pareil.
Voilà, c'est bon. J'avais dit qu'elle était difficile, hein.
Waouh!
Oh non!
Avec la question la pourrie du monde!
Ah, pourquoi? Ah, je voulais couper la parole et, oh non!
Sincèrement, j'ai presque honte de les prendre, ces points. On va quand même,
les prendre!
Ah non, oh la vache!
Et toi, au cas où, comme ça, juste pour voir ta question, c'était quoi?
Alors, attends, parce que j'ai refermé le fichier dans lequel j'avais ma question.
On peut juste avoir une petite pensée, hein, pour Fab et Gus, hein, qui sont juste en train de maudire leur petit coéquipier, hein, parce que
on se casse le cul
et tout à répondre aux questions de Shinji, compagnie. Et là, voilà, nous on prend des points facilement comme ça.
Ouais, mais c'est en novembre que ça compte.
Oui, bah, je sais pas ce que t'en penses, Shinji, mais moi je me dis à ce rythme-là, je crois qu'on va voir de plus en plus souvent. Bête d'ambition. Moi j'aime bien cette équipe.
Moi c'était, ouais, donc de Lübeck ou bien pour certains Cuperdon, j'ai eu mon rôle à jouer en F1. Que suis-je?
Personne.
Et non.
Pilote? Non.
Non.
Des sponsors?
Non.
Lübeck, ça me dit quelque chose, ça.
De Lübeck ou pour certains Cuperdon. Berdon, j'ai eu mon rôle à jouer en F1, que suis-je?
C'est une marque de voiture?
Non.
Puis c'est bizarre, ce Lübeck, ça me dit quelque chose.
Bah, c'est une ville allemande, mais je vois pas le rapport avec le Canada, quoi.
Ah, bah non, ça n'a pas le rapport avec le Canada, ça a un rapport avec la F1.
Ah, ah mais maintenant, ils font même des... ils font des questions n'importe comment.
C'est des lieux de naissance de pilotes allemands.
Non, mais comment dire, la chose dont je parle sera présente, sera forcément présente sur le Grand Prix du Canada.
Tu sais que t'as le droit de réfléchir aussi, Ben. Bon, on comprend que ta question t'est un peu épuisée.
Non, mais je c'est le décalage horaire. Hein.
et en plus, dans ma question, il y a que justement un des mots que j'emploie qui aurait dû déclencher un petit quelque chose chez Ben, quoi.
Pour certains de Guberdon.
Mais c'est ouais, non, de Lübeck. Oui, donc tu sais ce que c'est.
Oui, je vois bien ce que c'est, des Guberdon. Avec un P, pas avec un B.
Non, avec un B.
Ah non, c'est avec un P.
L'orthographe que j'ai trouvé, c'était avec un B et sur deux endroits différents.
Ah, c'est le champagne, non? C'est pas le champagne qui est sur le podium?
Non.
Qui viendrait de Lübeck ou pour certains de Guberdon?
Non.
C'est de la bouffe?
Non, c'est pas de la nourriture. Bah, si à un moment vous séchez, vous voulez la réponse.
Non, parce que
si je trouve, j'ai un
point. Ah non.
Non. C'est parce que on a mis 41 secondes, donc faut quand même un peu remplir l'émission.
Voilà, c'est on aime bien le sentiment de défi, tu vois. C'est à vous de vous entendre sur vos
c'est
questions,
pas une personne.
Les mecs.
Ah non, c'est pas une personne.
C'est un produit qu'on trouve sur la voiture.
Oui.
Non, pas sur les voitures.
C'est lié aux voitures.
Ça serait pervers de dire oui, mais non, c'est pas lié directement.
C'est sur le pilote?
Non, c'est pas sur le pilote.
C'est dans le garage?
Il peut y en avoir dans le garage.
C'est dans ton cul?
J'espère pas, parce que vu la taille, ça risque d'être un poil douloureux et je pourrais même participer.
Ah, c'est assez gros quand même.
Quelles sont les choses qui peuvent être présentes en permanence sur tout le circuit?
Du bitume!
Ah, comment? Non, pas le bitume.
Le tarmac. La peinture.
Non.
L'herbe.
Les spectres.
Non, c'est quelque chose que l'on peut rajouter sur le circuit en supplément, sur certaines
les pneus.
Pas les tribunes.
Non. Hein, non, pas les pneus. Ah ben, Lewis Hamilton a pu en rencontrer quelques-uns sur sa route.
Les jantes.
Non.
Bah non.
Ah ben non, mais il dit ah, pas les pneus.
Des voitures.
Non.
D'autres voitures.
Non.
Des Felipe Massa.
Non. Quoique la couleur de la Ferrari pourrait
C'est un truc rouge qu'on met sur les vibreurs?
Pas entièrement rouge. Ah, sur les vibreurs, ouais, tu t'en rapproches. Qui peut être pas loin des vibreurs.
Ah, c'est les plots là qu'ils mettent dans les virages, dans la corde des virages.
Voilà, c'est exactement ça. C'est les plots de simulation qui sont appelés les plots, comment dire, les cônes de Lübeck. Auparavant,
oui,
fabriqués à Lübeck, en Allemagne. Mais il faut savoir que le marché désormais du cône de chantier ou cône de Lübeck est un marché qui est français désormais. Le plus gros fabricant est en France et en Belgique. On l'appelle familièrement les cônes de Lübeck, les Guberdon.
Et on peut dire les deux, hein. Guberdon et Guberdon.
Voilà, mais
vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque.
Parce que le Guberdon, le Guberdon en Belgique est une friandise en forme de cône. Et familièrement.
Ouais, c'est une cône avec une espèce de petite liqueur. C'est une pâte de fruits en gros avec une liqueur dedans.
Mais c'est pas Hamilton justement qui s'était pris un cône de Lübeck là à Abu Dhabi l'an dernier en plein frontal qui avait une caméra dans le cône et qu'on a vu.
Exactement.
Mais il y a toujours une caméra là avec le plot et quasiment tous les ans le plot saute.
Oui.
Voilà, exactement.
C'est exprès, c'est juste pour avoir ce plan-là.
Bah, comme on peut voir assez régulièrement, ouais, c'est à Monza où il y en avait pas mal qui étaient placés, que certains pouvaient les traîner un petit peu sur pas mal de distance et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur les circuits, mais on connaît pas forcément le nom, d'emploi que le terme familier de cône de chantier, alors que à la base, il y a quand même un petit nom, cône de Lübeck, qui est présent. Mais vous avez mis du temps quand même à mon père, il a trouvé ça encore.
Ouais. Quand tu sais cône de Lübeck, je pense que ouais, c'est en 10 secondes tu tiltes.
Mais c'est vrai que c'était un peu un peu pervers comme question, et c'est pour ça même j'hésitais à la poser parce que je me suis dit c'est...
Non mais c'était pas mal.
Ça
aime bien quand vous faites des questions simples et tout mais des questions un peu perverses comme ça, c'est sympa.
D'accord,
mais j'ai rappelle-nous le score.
Crolle.
Le score est de 14 à 11.
Pourquoi j'ai pas coupé la parole? Je vais en faire des cauchemars de pas d'avoir coupé la parole.
Mais c'est ça le truc, c'est que en plus, t'as pas su t'imposer face à Ben, parce que avec ta question, t'as été trop timide en disant « Oh, mais on l'a trouvé en 40 secondes. » T'as pas eu confiance, alors que ta question, elle est quand même pas mal péchue et intéressante. Donc du coup, t'as laissé Ben dire sa question. Franchement, Ben, je sais pas ce que t'as pris aujourd'hui, mais quand même. Et du coup, ouais, t'as pas été assez fort. C'est un jeu de racaille. Enfin, faut le premier qui parle, c'est celui qui parle le plus fort qui gagne.
Bah, ils sont deux avec des comme ça.
Ah, et en plus, j'ai laissé du temps à Steph Corp pour, tu vois.
Oui,
voilà. Mais donc, Fab et Gus Gus, il faut s'en prendre à Steph Corp. Je n'y suis pour rien.
Qui nous a posé
ce jeu va provoquer des drames dans cette vidéo.
J'aime bien cette ambiance chinoise.
Oui.
J'adore cette ambiance.
Ce qui est génial, c'est que ça devrait être délétère entre les équipes, mais non, c'est délétère dans les équipes. C'est merveilleux.
Entre les chroniqueurs et les présentateurs, on va tous se finir au taser pour les prochaines questions.
Messieurs, sur cette, je vais même pas dire cette brillante victoire, parce qu'on peut pas se permettre de dire brillante victoire.
Non, Shinji, tu me coupes pas la parole, c'est fini, on me coupe plus la parole, je veux l'avoir. Là, je me suis fait avoir une fois, non, j'ai rien à dire, non, c'est bon, non, vas-y, voilà. Continue.
Sur cette...
Après les monologues de Dino, le monologue de Steph Corr.
Messieurs, passons au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Donc revenons d'abord à l'actu principale du dernier mag, en date du 23 mai. En dernière position, avec seulement 5,13%, vous avez choisi Mercedes qui pourrait bientôt signer les accords Concorde. Pour 10,26%, les rumeurs de transfert. Avec 15,38% est arrivé troisième le Grand Prix de France, hein, le dossier réévalué. Mais les deux actus qui ont dominé, c'est pour 30,77% la situation de Massa chez Ferrari. Et en tête, avec 38,46%, les budgets plafonnés dès 2013.
C'est bizarre, en tête, c'est les sujets les plus intéressants, les plus variés, ceux qu'on n'avait pas déjà traités avant.
Sans doute.
C'est bizarre. Oh là là.
Alors Ben, Steph, un avis sur les budgets, sur le projet de budget plafonné?
Personnellement, ouais, non, moi ça m'intéresse, ouais, dans le fait que je suis pour les budgets plafonnés. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. J'aimerais vraiment qu'à un moment on arrive à régulariser les choses et que chacun ait à peu près les mêmes chances. Voilà, moi la seule chose que j'aimerais, c'est que chacun puisse partir avec à peu près une certaine équité sur la ligne de départ. Et c'est vrai que de pouvoir plafonner les budgets, ça permettrait quand même aux petites équipes de réussir à gagner quelques places. Mais après, on aura toujours la difficulté, vu les accords de Concorde qui ont été signés actuellement, il y aura toujours un gros déficit même pour ce plafonnement, parce que je pense pas que, même si un plafonnement est effectif, qu'on aura les accords Concorde qui rentreront dedans pour statuer sur le budget. Donc il y aura toujours cet excédent-là qui viendra pour les équipes.
Ben?
Ouais, bah non, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, ce serait une bonne chose, ça nivellerait un peu plus le niveau entre les équipes, et ça permettrait d'avoir des écuries avec des performances plus proches les unes des autres, et ça c'est toujours bon pour le spectacle, et mais bon, en 2013, ça me semble un peu tôt quand même.
Ouais, mais t'as vu quand même...
Mais, moi, je suis pas contre, mais je me dis que on arrive déjà mi-2012, donc... J'imagine que les équipes vont bientôt penser sérieusement à leur voiture de l'année prochaine. Pour certaines, ça doit déjà être fait. Et je vois pas comment ce serait possible de mettre ce genre de budget plafond en place pour 2013.
Bah, surtout,
en sachant qu'on entend souvent ces dernières semaines des écuries, et surtout des constructeurs, parler du coût plus ou moins exorbitant des futurs moteurs prévus pour 2014. Donc je vois pas comment ils vont arriver à placer ça, mais moi je suis pour personnellement.
Donc, ce qui concerne donc les actus, hein, de ces deux dernières semaines ou ces derniers jours, vous avez choisi entre autres. Alors comme d'habitude, hein, il y a toujours des petites une petite session de rumeurs, de transferts, hein, dans le SAV. Et cette semaine, après Felipe, après Marc, cette semaine c'est le cas Lewis. Lewis, donc, qui aurait peut-être déjà choisi de quitter McLaren. Hein.
Ouais, je l'ai oublié, lui, tiens.
C'est une nouvelle donnée par Jean-Louis Moncey. Hein. On ne sait pas s'il était aux toilettes ou pas cette fois-ci encore, mais voilà. Ils sont même allés plus loin en disant carrément peut-être qu'ils quitteraient l'équipe en courte saison, mais alors là.
Ou alors ça, personne n'y croit.
Voilà, je crois qu'on est d'accord.
C'est le petit supplément d'infos qui décrit
du tout, voilà.
Bien sûr, Lewis Hamilton va se barrer chez McLaren en
courte saison. Bien sûr.
En cette année, je me dis, allez, hop, je fais une petite pause.
Mais qui part, ça m'étonnerait pas.
Mais alors, voilà, par rapport à l'an prochain, est-ce que c'est réaliste?
Le marché des transferts va être hyper ouvert pour 2013, parce qu'il y a une place chez McLaren, celle d'Hamilton. Chez Red Bull, bah, comme chaque année, Weber continuera pas. Chez Ferrari, la place de Massa est quand même toujours plus qu'en danger. Donc il y a des places un peu partout. Chez Mercedes, est-ce que Schumacher va rester ou pas? Donc il y a des places partout. Donc j'ai envie de dire que si Hamilton veut partir de chez McLaren, c'est presque l'année prochaine qu'il doit le faire. Parce que après, les contrats vont être re-signés avec d'autres pilotes un peu partout. Des contrats plus ou moins longue durée. Donc il va devoir, s'il part pas maintenant, il va devoir rester encore 1, 2 ans, peut-être 3 chez McLaren. Donc j'ai envie de dire que s'il a envie de partir, c'est maintenant, quoi.
La question, c'est partir où?
Oui, bah oui, parce que on le voit pas aller.
Il a trouvé une équipe. Moi, on donne les noms de Red Bull, d'accord, mais bon, face à Vettel.
Red Bull, c'est pas possible.
J'y crois pas trop.
Ils ont toujours dit qu'ils voulaient pas de Lewis en plus.
Et puis on cite surtout le nom de Mercedes. Enfin, je suis désolé, pour moi, Mercedes n'a rien véritablement prouvé. Voilà, alors quand on dit qu'il va partir parce qu'il en a marre que McLaren fasse des erreurs, mais qu'en même temps il va aller chez Mercedes, qui soi-disant est sur la pente ascendante, oui, enfin ça fait 3 ans qu'ils sont sur la pente ascendante.
Oui, mais ça peut être un nouveau défi aussi, tu vois.
Oui, oui.
Dans un sens, parce que chez Red Bull, il ira pas, parce que chez Red Bull, à mon avis, Weber, ils vont essayer de le garder. Et le jour où Weber part, ce sera pour mettre un pilote de la filière Red Bull, parce que c'est comme ça que ça marche chez Red Bull. C'est pour ça que Vettel a été un petit peu favorisé. En tout cas, ça les a bien arrangés qu'ils soient champions du monde en 2010. Parce que ils ont une vision corporate de leur truc. Donc Weber, il est là, il signe chaque année un nouveau contrat, et le jour où il part, ce sera pour mettre actuellement soit Ricciardo ou Vergne à côté de Vettel. Chez Ferrari, il va sûrement pas retourner avec Alonso. Je pense que Alonso pourrait mettre un veto, hein, il serait pas ravi de le voir arriver. Donc il reste que Mercedes.
Il dit qu'aujourd'hui, ça peut être envisageable. Pas que ça se fera, mais que...
Est-ce que Ferrari le fera?
Voilà, c'est surtout est-ce ça. Est-ce que c'est dans leur intérêt? Voilà, je suis pas sûr par contre.
Bah leur intérêt, c'est d'avoir deux pilotes capables de marquer des points. Maintenant, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un Fernando Alonso et un autre pilote qui peut devenir champion du monde, et pas juste un pilote qui peut marquer des gros points,
parce qu'en plus,
sans faire de l'ombre à l'autre?
Tout le monde dit oui, ça s'est calmé. Mais oui, ça s'est calmé, mais ils sont plus dans la même équipe. Ils ont plus été véritablement dans la même situation. Rien ne dit que si on les met pas dans le même panier, ça va pas recommencer.
Après, sincèrement, les autres hypothèses concernant Hamilton, enfin, je comprends la notion de défi que tu avances, Ben. Mais est-ce que vraiment chez McLaren, il a fait tout ce qu'il pouvait faire? Là, est-ce que Lewis a vraiment fait le tour de la question avec McLaren? Moi, j'en suis pas certain.
C'est quand même lui qui a ramené. Enfin, c'est pas la même histoire que pour Alonso avec Renault ou même Schumacher avec Ferrari, mais. C'est quand même lui qui a ramené le titre chez McLaren après quasiment 10 ans d'attente, puisque le dernier titre avant lui c'était 99 avec Hakkinen. Et puis en même temps, il est pouponné par McLaren depuis avant la F1, donc est-ce qu'il en a un peu marre de cet environnement-là? Il a fait deux très bonnes saisons, 2007-2008, il a tout de suite gagné quasiment avec McLaren. Il a été champion du monde en 2008, il a connu des mauvaises saisons comme 2009, même 2009. Donc il a connu
2011, on peut la mettre dans le lot des mauvaises saisons.
Ouais, on peut mettre 2011. Mais il a eu des hauts et des bas avec McLaren, donc il a quasiment tout connu. Maintenant, il pourrait encore avoir un deuxième titre et en général, c'est vrai que quand on regarde, c'est souvent à ce moment-là que les pilotes ont envie de changer d'air. Après un deuxième titre, on le voit bien avec Schumacher. On l'a vu aussi d'une certaine façon avec Alonso. Donc maintenant,
par exemple, il a jamais été champion constructeur avec McLaren. Il n'a pas encore battu officiellement Button. Première saison, c'est quasiment un match nul. Il finit devant, mais pour quelques points, ils ont autant de victoires et compagnie. Donc c'est pas vraiment battu, surtout que Button venait d'arriver. L'an dernier, c'est Button qui bat Hamilton. Il s'est jamais véritablement imposé face à Button. Button, lui, il est arrivé avec le défi de je je vais battre Hamilton. Il l'a en partie réussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres intérêts plutôt que d'aller voir ailleurs? Alors moi, je veux bien qu'il aille voir ailleurs. Je suis tout à fait pour qu'il aille voir ailleurs. Je me rappelle même l'an dernier qu'on lui reprochait justement de dire jamais j'irai voir ailleurs et qu'on lui disait au contraire, il faut qu'il se garde l'esprit ouvert. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vraiment il a fait le tour de la question chez McLaren? Moi, je suis pas certain.
Bah, pour moi, il doit forcément y avoir une lassitude. Il est suivi par McLaren depuis ses débuts. Il connaît les gens, les côtoie depuis certains, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. Voilà, pour lui, personnellement, peut-être qu'au niveau sportif, il n'a pas fait le tour de la question, mais je pense que personnellement, pour lui-même, il a dû faire le tour de la question. Il revoit les mêmes têtes, il a toujours les mêmes approches et tout. C'est vrai que de voir les autres pilotes dans d'autres écuries, au moins d'autres curiosités est là. Et moi, personnellement, au-delà des autres écuries de pointe, Mercedes, Ferrari ou autre, s'il était quelque peu intelligent dans son choix, il pourrait très bien parier sur même une écurie qui commence à progresser comme Lotus Renault ou autre, où il aurait une place réellement de champion du monde avec tout l'entourage qui serait autour de lui pour le soutenir et tout. Et en même temps, vu que tu as une évolution motoriste en 2014, on sait que Lotus va être quand même favorisé pour le développement de ce moteur. Et pour le moment, Renault tourne bien et il n'y a pas de raison particulière de craindre que les prochaines évolutions du moteur pour la nouvelle réglementation viennent à vraiment baisser de cadence. Il pourrait très bien se dire, voilà, je tente un challenge complètement différent, une nouvelle équipe, une nouvelle approche et un challenge sportif en lui-même d'aider à développer une écurie. Ça me semblerait quelque chose.
Mais ça n'a jamais été son objectif. Hein, quand tu écoutes ses déclarations depuis qu'il est arrivé en Formule 1, son objectif c'est d'accumuler les titres. Il se veut le nouveau Senna et compagnie. Enfin, moi, j'arriverai sincèrement. C'est sur l'aspect, il a envie de partir de chez McLaren. Je comprends pas qu'un mec qui dise que depuis des années qu'il veut gagner des titres. L'an dernier encore, il disait qu'il était frustré parce que son dernier titre, enfin son premier titre, il commençait à dater et qu'il avait vite envie de regagner. Quel intérêt il aurait à se lancer dans une aventure telle Lotus ou même Mercedes, où il n'a pas les mêmes garanties d'expérience, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut de McLaren, certes ils font des conneries, mais ils font quand même du très bon boulot sur la durée. C'est la seule équipe avec Ferrari et aujourd'hui Red Bull qui est capable de fournir ce niveau d'excellence quasiment chaque saison. Cette année, il a une bonne voiture, ils font des conneries de temps en temps, mais il a une bonne voiture. Moi, c'est sincèrement, je trouve qu'il y a quelque chose de... Il pourra pas aller dans une équipe pour le défi d'une équipe. En tout cas, c'est pas encore le moment où c'est venu, à mon avis, dans sa carrière. Il est encore un moment où il a été qu'une fois champion du monde. Lui, il veut l'être 3-4 fois. Il faut d'abord assurer le palmarès. Tu te lances dans un défi quand t'as déjà plus rien à perdre, entre guillemets. Ou en tout cas, que tu peux te permettre de ne plus gagner au cas où. Mais lui, il peut plus se permettre de pas gagner. Il arrête pas de nous dire que son envie, c'est de gagner et compagnie.
Non, mais...
C'est-à-dire se relancer dans un processus avec des équipes qui aujourd'hui sont pas forcément plus performantes que McLaren. Ils sont relancés dans tout un processus de redressement d'une équipe et compagnie.
Au-delà, de son envie de titre ou autre, si tu lis certaines interviews, ce qu'il aimerait, c'est de laisser une marque dans l'histoire. S'il continue avec Mercedes tel qu'il est, il restera simplement un pilote Mercedes qui a été durant quelques années au volant d'une Mercedes. Il se rend bien compte qu'un Alonso va laisser plus de marques parce qu'il a réussi à aider à Renault à gagner des titres, de là de s'arracher d'être un pilote Ferrari sur lequel il essaie de faire progresser la voiture, et à chaque fois qu'il a été dans une écurie, il a essayé de faire progresser les choses, même s'il n'a pas obtenu de titre, il sait que Alonso maintiendra une place dans l'histoire un petit peu plus importante de la F1, et je suis sûr que quelque part ça doit le titiller de se dire que s'il aide à développer une écurie et à monter, il garde une place plus importante au sein d'une écurie, et à ce moment-là, une marque dans l'histoire, parce que je pense qu'il...
Est-ce qu'il a l'âge?
Attends, je pense qu'il doit se dire qu'il n'arrivera pas à établir des stats à la Senna ou à établir des stats à la Schumacher. Pour lui, il doit se dire que le niveau est tel désormais en F1 pour le moment, et l'équilibre sur les monoplaces commence à être vraiment présent, donc à ce moment-là, c'est un peu plus la roulette russe, il n'y a pas de domination réelle. Pour moi, ça m'étonnerait pas qu'ils se disent, voilà, on tente le pari de sur une nouvelle écurie comme Vettel a pu le faire chez Red Bull ou autre, avec une progression qui commence à arriver.
Vettel, il a pas fait le pari, Vettel.
Non, je veux pas dire qu'il a fait un pari.
Vettel, il est arrivé dans l'équipe.
Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que Vettel est arrivé dans une écurie qui commence à progresser, et il a pu avoir une domination durant quelques saisons grâce à cette écurie. Et ça m'étonnerait pas. Moi, si j'étais à sa place ou ses managers, je dirais, ben voilà, tente le pari Renault qui commence vraiment à bien progresser, et on sait fait que la structure a donné ses preuves dans le passé, et il peut très bien se retrouver
avec.
Mais il
n'y a pas les moyens, non, qu'il n'y a rien derrière.
Pour le moment.
Pour le moment.
Parce que Raikkonen.
Pour le moment, oui, mais. Pour le moment.
Non, mais c'est ça. Non, mais
pour
c'est
le
ça,
moment, il n'y a pas les. Attends. Pour le moment.
Je suis bien d'accord, pour le moment. Mais il a quand même, lui aussi, au départ, une ambition qui est de gagner des titres. Là, on est en train de parler d'un défi chez Lotus. Lotus, sincèrement, avait même avec Lewis Hamilton, le temps que la mayonnaise prenne, ça sera pas l'année prochaine qu'il sera champion, mais ça sera en 2014.
On sait jamais.
2015, 2016.
On sait jamais l'année prochaine. Regarde les progrès qu'ils sont en train de faire cette année.
L'année prochaine, attends, ils sont quand même en train de se battre face à des équipes qui ont des budgets et compagnie. Là où Lotus est quand même très dépendant d'un motoriste, ce qui n'est pas le cas ni de Mercedes qui est un véritable motoriste, ni de Red Bull qui est aujourd'hui l'équipe première de Renault, ni de McLaren qui a toujours eu des liens particuliers avec Ferrari, avec Mercedes, ni Ferrari qui est son propre motoriste. Il y a quand même tout un côté logistique. Alors après, on peut en discuter, mais c'est quand même un pari énorme que de se dire l'année prochaine, je vais chez Lotus. Sincèrement, je trouve que c'est un peu précoce pour un pilote de 26 ans qui n'est entre guillemets qu'une fois champion du monde, mais qui a l'ambition de l'être plusieurs fois, de se lancer un défi. McLaren, c'est quand même le type d'équipe que tu peux pas quitter n'importe comment. Enfin, à la limite, moi j'ai toujours dit, faut qu'il parte de McLaren si jamais il y a mieux ailleurs. Mais aujourd'hui, le truc c'est que McLaren, mieux ailleurs, c'est Red Bull. Voilà, il y a aussi cette notion-là, peut-être avant tout, le pari, d'accord, mais je pense que c'est un peu tôt pour Hamilton de se lancer dans ce genre de pari.
Mais ceci dit, ça fait déjà 6 ans qu'il est chez McLaren, c'est un bail.
Ah oui,
c'est longtemps. Mais par contre, quand tu y penses, à part Vettel qui est arrivé une année après, Massa et Weber, tous les autres ont changé. Et ça, c'est vrai que ça fait une éternité qu'il est chez McLaren, hein, quand on y pense. Ça paraît pas par contre ça, mais sur une carrière, aujourd'hui...
Mais vous pensez pas qu'un mec qui l'an dernier nous disait mordicus que jamais il quitterait McLaren et compagnie, peu à peu il a changé de discours parce qu'il a vu que l'équipe marchait moins bien, qu'il y avait des erreurs qui étaient commises, etc. Vous pensez pas que si jamais il change d'équipe, c'est pour aller dans une équipe qui va lui assurer la victoire et non pas pour aller dans une équipe qui va être un pari?
Ouais, mais cette année, qui
de toute façon, il va devoir prendre
quelle équipe
en partant de chez
McLaren.
Quelle équipe actuellement peut t'assurer de gagner? Aucune.
Pas t'assurer, on peut pas dire t'assurer.
Non,
au moins aujourd'hui, il est dans une équipe qui s'appelle McLaren, qui depuis 10 ans fait tout le temps des bonnes voitures, qui a des hauts et des bas.
Mais cette saison?
Là, je parle en long terme. T'as quand même, il est quand même aujourd'hui dans une équipe qui s'appelle McLaren, qui est au sommet de la Formule 1 depuis 15, 20, même peut-être même, minimum 20, 25 ans. Voilà. Qui a connu des hauts et des bas, mais qui a toujours été capable d'être au niveau. En face, t'as Red Bull, qui n'offre strictement aucune garantie sur son avenir, qui était pas là il y a 5 ans, et qui serait, ça ne dérangerait pas de pas être là dans 5 ans. Qui est très dépendante quand même d'un ingénieur. Lotus.
Tu peux pas dire non plus que McLaren va pas par exemple se cracher la gueule en 2014.
Non, exactement.
Je suis pas en train de dire que l'année prochaine. Non, je sais pas qui va gagner l'année prochaine. Maintenant, il y a une constante, c'est qu'il y a des écuries qui jouent régulièrement la victoire, et il y a des écuries qui la jouent moins. Et un pilote se doit de regarder l'histoire de l'écurie. Aujourd'hui, il est dans une équipe qui se bat pour la victoire constamment toute saison depuis 25 ans, qui se bat pour la victoire, les pole positions quasiment toutes les saisons, sauf quelques incidents.
Donc pour toi, il quittera jamais McLaren.
Non, mais il peut quitter McLaren, mais quitter McLaren pour un défi comme Lotus, pour moi aujourd'hui, c'est inenvisageable. Si jamais il y a une écurie qui se semble meilleure, qui fait du meilleur travail.
Eh ben moi excuse-moi, Dino, mais je te retourne l'argument. Ce que tu es en train de me dire, c'est que t'as Mercedes que McLaren pour le moment qui est en déclin, Ferrari qui en ce moment est en déclin, Mercedes. Attends. Juste qui ont de moins bons résultats. Mercedes, McLaren a de moins bons résultats. Mercedes a de moins bons résultats, Ferrari a de moins bons résultats, et en ce moment on a une écurie qui commence à progresser un peu. Pour moi, la vision que t'as, c'est de se dire le pilote il va regarder l'historique. Non, le pilote, moi, il regarde le potentiel à venir, et il se dit il y a peut-être une possibilité.
Non, je ne dis pas que le pilote va regarder le potentiel historique, mais il est obligé de regarder le potentiel historique. C'est bien gentil de dire que Lotus ça va cartonner l'année prochaine.
Mais ton départ d'une écurie, c'est un pari.
Personnellement, chez Lotus, je vois pas vous voulez le mettre. Ils ont Raikkonen qui a un contrat de 2 ans, et Grosjean, d'accord, il a un contrat d'un an, sous, parce que c'est un jeune pilote et qu'ils vont pas prendre le risque. Il fait pas du mauvais boulot, Grosjean. Donc pour moi, actuellement, Grosjean va être conduit.
Non,
donc, chez Lotus, il n'y a pas de place.
Au-delà. 2013.
ce que je comprends pas, c'est la notion de se dire Lewis Hamilton, il va tenter un pari dans une équipe, par exemple Lotus.
Mais moi, c'est...
Mais,
c'est...
mais Lotus, sincèrement, non, d'accord, ça progresse.
Ce qu'on te dit, c'est que par définition, s'il quitte, il prend forcément un pari.
Pas forcément. Je suis désolé, quand un pilote va chez McLaren ou va chez Ferrari, n'importe quel pilote, quand un pilote a le choix entre McLaren, Ferrari ou Lotus, Mercedes, aujourd'hui, il préférera aller chez McLaren, Ferrari, parce qu'il sait que c'est une équipe qui connaîtra peut-être des hauts et des bas, mais qui est toujours sur le podium, qui joue toujours là, qui est toujours très stable, qui est toujours là, toujours présente, qui a une grande expérience. Là où en face, il y a des équipes qui vont peut-être faire des coups d'éclat, qui vont peut-être faire des apparitions, mais que ça va être en dents de scie. Il y a une constante depuis 20 ans, c'est McLaren, Ferrari. On retrouve toujours les deux mêmes équipes au sommet. Si lui s'engage, il va pas faire seulement un contrat d'un an, il va faire un contrat de plusieurs années avec cette équipe, avec sa nouvelle équipe. Donc il faut qu'il ait des garanties sur l'avenir. Aujourd'hui, des garanties sur l'avenir, bah pour les connaître, il faut regarder ce qui s'est passé sur le passé.
Ouais, mais pas sur 20 ans, sur 4-5 ans.
Exactement.
Bah oui, sur 4-5 ans, mais sur 4-5 ans.
Sur 4-5 ans, tu prends le bilan de McLaren et Ferrari, c'est pas le même que le bilan sur 20 ans.
Ferrari, McLaren, Red Bull, c'est les trois équipes qui sont devant depuis 4-5 ans. C'est ce que j'ai dit depuis le départ, c'est que moi je pense il ne peut pas partir pour une équipe pour se lancer dans un pari qui consisterait à relancer une équipe et compagnie. Enfin, c'est
Alonso a le courage de le faire. Alonso, il a fait une année de transition, comment dire, il est reparti. Non, il est redescendu chez Renault.
Non, il est redescendu parce qu'il avait pas le choix. Mais au départ, Alonso, il a quitté Renault pour aller où? Chez McLaren. Parce que McLaren, tout simplement, c'est une équipe historique qui proposait plus de résultats. Il se trouve que...
Parce qu'il avait besoin de changer d'air aussi. Moi, je pense qu'Hamilton, s'il change, c'est que au-delà du défi, voilà. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça fait déjà 6 ans qu'il est chez McLaren, qu'il y a peut-être, à mon avis, une certaine lassitude, due aussi au fait que là, il sent qu'il y a une voiture qui peut lui permettre de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait cette saison. Parce qu'il a fait 3 pôles, il aurait pu au moins gagner une course. Au moins. Et ça n'a pas encore été le cas. Donc, au-delà du fait de se lancer un défi, parce que de toute façon, quitter une écurie pour aller dans une autre, c'est toujours, d'une certaine façon, un défi, parce qu'on peut pas être sûr que la mayonnaise va prendre. Il suffit de voir Alonso avec McLaren, la mayonnaise a pas pris. Pour X raisons, mais elle n'a pas pris. Et là, je pense que si Hamilton part, ce sera aussi un défi, parce que voilà, il faut arriver dans une autre écurie, s'intégrer dedans et réussir à la faire fonctionner. Mais aussi une certaine forme de lassitude et une envie de changer d'air et de retrouver d'une certaine façon une motivation qui, avec la lassitude qui pourrait s'installer chez McLaren après 6 ans, ce qui est normal, il aurait peut-être envie d'aller voir ailleurs.
Il va pas faire son choix juste pour changer d'air. Il va faire son choix aussi parce que c'est une décision sportive, parce qu'il veut gagner. Aujourd'hui, moi je pense sincèrement que aujourd'hui, le meilleur contexte, c'est soit McLaren, soit Red Bull, qui ressemble peut-être le plus à ce qui peut changer. Ouais.
Messieurs, passons à un autre. Oui.
Attends, juste pour te dire, et justement, pour essayer d'avoir une conclusion, et justement, bah, pour moi, parce qu'il n'y a pas de choix qui lui assure un confort et une certitude de réussir une progression correcte l'année prochaine, c'est pour ça que pour moi, il devrait oser un pari. Après, c'est même limite un souhait que je ferais, mais j'aimerais bien qu'il tente un pari plutôt que...
Voilà, mais on aimerait tous, on aime voir les pilotes prendre des paris, enfin.
Exactement.
Voilà, moi ce que je pense sincèrement, je pense qu'aujourd'hui il est en train d'attendre de voir comment va tourner le championnat. Et que si jamais il se trouve effectivement en bonne position au mois d'août pour être champion, peut-être qu'effectivement il décidera de partir et peut-être de prendre un risque. Si jamais il voit que bah cette année encore c'est cuit, je suis pas sûr qu'il prenne la même décision et qu'il préférera peut-être rester un peu plus sur quelque chose de plus stable, de plus sûr pour avancer au moins dans son palmarès.
De toute façon, ça sert à rien de se prendre de se précipiter, parce que de toute façon, comme on l'a dit en début de débat, tout est ouvert pour l'année prochaine. Oui, puisqu'il y a une place de libre dans toutes les équipes, potentiellement. Donc ça sert à rien de dire maintenant, je vais re-signer. Pas forcément, mais il y a,
non mais, c'est le genre de mec, quand il est sur le marché, t'attends de savoir où il va aller pour placer tes pions.
Oui, bah oui, bah
oui, c'est une des clés. C'est une des clés, oui, des transferts.
Tous les mecs aujourd'hui, il y a deux clés. Il y a la clé, c'est Schumacher, savoir s'il va rester ou pas, ce qui va débloquer des places.
Et Hamilton,
en savoir où est-ce qu'il va aller. Et de la fonction où est-ce qu'il va aller, ça va débloquer le reste.
Enfin, ceci dit, si Schumacher part, je pense qu'ils vont faire monter Di Resta, moi, mais, qui est quand même estampillé Mercedes et qui aura passé deux saisons chez Force India. qui fait du bon boulot et ils pourront le mettre à côté de Rosberg, à mon avis, sans souci.
Puis c'est pareil, comme tu dis, pour le changement d'air, est-ce que passer de McLaren à Mercedes, est-ce
oui,
que c'est vraiment
c'est vrai.
Changer d'air
c'est vrai.
Et quitte à changer d'air, autant aller chez Ferrari ou autant aller chez Red Bull, à la limite chez Lotus, qui pour le coup, ça va être des changements d'air, parce que tu vas découvrir des nouveaux moteurs. Voilà, là, ça reste quand même très très lié.
Bah, en plus, Mercedes, il y aura un souci, c'est que le board, est-ce que le board acceptera de lâcher 30 millions d'euros pour un salaire, ou même une vingtaine d'euros pour un salaire.
Ah ouais.
Donc ça pose aussi un souci là, quoi. Mercedes sera plutôt envisagé un jeune qui leur coûtera pas trop cher et de pouvoir économiser sur la masse salariale. Et même si Schumacher part, qui va être intéressé par Mercedes? Je suis désolé, ça fait 2 ans que les résultats sont plutôt juste corrects. Voilà, sans plus.
Bah, ici, début de saison, à part les 2 premiers Grands Prix où ils sont complètement à la rue parce que même Rosberg ne marque pas de points, Schumacher il en marque 2, je crois, en Malaisie. Ouais. C'est quand même lui, Rosberg qui marque le plus de points et globalement, ils sont pas ridicules par rapport aux autres équipes que sont Red Bull, Mercedes, McLaren, Lotus et Ferrari. Ils sont quand ils sont dans le jeu, quoi, cette année.
Mais après,
même s'il y a encore des progrès à faire, on est bien d'accord. Mais
voilà, et en même temps, le pilote va bien regarder le niveau d'investissement que fera l'équipe. Et on sait parfaitement que si Mercedes peut limiter un peu les investissements, ils le feront. Donc un pilote, même ça, il va l'envisager, il va regarder, il va se dire, ouais, on va pas avoir un développement aussi poussé qu'on peut l'avoir chez d'autres teams. Mercedes.
Mais ce qui compte chez Mercedes, c'est la capacité de réaction.
Sauf si on a des budgets capés.
Ouais. Voilà, exactement.
Messieurs, changeons de sujet et on va parler. Et
t'as vu, j'ai bien clôturé, hein, en revenant dans la boucle.
On va parler de crédibilité, puisqu'en effet, on a eu plusieurs interviews, plusieurs témoignages qui s'inquiètent. Est-ce que la F1, avec ses résultats changeants, hein, on peut difficilement dire le contraire, est-ce qu'elle ne perd pas un peu de sa crédibilité? Alors, on a eu Alonso, Button, Loda, Briatore, hein, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, hein, qui ont dit faut faire attention.
Moi je trouve
qu'il y a eu Maldonado aussi.
Ouais, c'est vrai.
Bah, je crois que sur Maldonado, il voulait pas trop dire. C'est-à-dire que il y en a deux qui ont comparé la F1 au GP2, c'est Alonso et Maldonado. Dans la bouche d'Alonso, c'est une critique et dans la bouche de Maldonado, c'est voilà, bah, en fait
c'est bien. Ouais.
Bah personnellement, je trouve ça ridicule quoi, c'est bien parce que je vois dans mon entourage et autres, les gens ont plus tendance à s'y intéresser justement parce que le championnat est ouvert et pas dominé.
Les critiques qu'il y avait contre la F1, c'est de dire ouais, c'est toujours entre guillemets, c'est toujours Schumi qui gagne. Bah là, c'est tout le contraire.
À chaque course, on a droit à un résultat différent, on a une vraie petite loterie entre guillemets, mais on a droit à des surprises, et ça porte un intérêt même du public à rejeter un œil sur la F1 en disant voilà, il n'y a pas de domination totale de Red Bull, de Ferrari ou de McLaren. C'est ouvert, on voit même un Maldonado qui remporte. C'est excellent quoi. Ça rouvre le public à s'intéresser un petit peu plus à la F1. Et bien sûr, je comprends la frustration des pilotes parce que les pilotes eux ou un directeur de team aimeraient une domination, le fait de s'imposer, de maintenir et d'être à la tête du championnat et d'avoir justement un focus sur eux, ce qui leur permettrait de rapporter plus de sponsoring ou d'attirer plus d'investisseurs. Là que le championnat soit ouvert, ben on se retrouve avec les gens extérieurs qui regardent. Mais moi je trouve ça excellent et je comprends le raisonnement pour un pilote, mais pour moi personnellement je trouve ça excellent quoi.
Parce que c'est vrai que c'est imprévisible, variable, mais on peut pas dire non plus que il y a pas eu de victoire scandaleuse. Je veux dire, même les premières victoires de Rosberg ou Maldonado, elles sont complètement méritées.
Mais c'est ça le truc, sincèrement, quand tu vois la victoire de Maldonado, on peut rien reprocher à Maldonado, c'est pas une victoire avec des circonstances, contrairement même à ce qu'aurait pu être la victoire de Pérez en Malaisie, c'est une victoire à l'air régulière en piste, sauf qu'on se rappelle quand même que l'an dernier, la Williams, elle était, mais à la rue, et que cette année, tout d'un coup, ils ont une voiture qui gagne. Moi, je comprends sincèrement qu'il y ait certaines personnes qui suivent la F1 depuis des années, et j'en fais partie, qui ont une certaine logique de la F1, qui voient une certaine cohérence historique, et parce que la F1 aussi, c'est ça, il y a quand même quelque chose de bizarre, avoir une équipe qui était à la rue l'an dernier, tout d'un coup gagner. C'est un peu comme si en football, tout d'un coup, t'avais,
la Grèce qui gagne l'Euro?
Si t'avais Sochaux qui arrivait à devenir champion de la Ligue des Champions, quoi. Du jour au lendemain, voilà, Sochaux, ils arrivent à battre le Barcelone en leur mettant 5-0. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que Moi, je trouve que le championnat est intéressant parce qu'il offre du spectacle et compagnie. Maintenant, je trouve que peut-être que l'équilibre aujourd'hui, il est peut-être pas bien parce que on a trop de spectacles, trop d'imprévisibilité par rapport à une certaine, parce qu'il en faut quand même un certain ordre, un certain équilibre derrière où les gens ont quand même des repères. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des repères. Et aujourd'hui, on n'a pas de repères quand on arrive sur un week-end de Grand Prix. On sait jamais à quoi s'attendre.
Pourtant, au classement constructeur, t'as qui parmi les quatre premiers? Red Bull, McLaren, Ferrari et Lotus.
Oui, mais c'est ça, parce que devant, à la première place, pour la victoire, c'est toujours quelqu'un de différent. Alors, évidemment, parfois, c'est une Mercedes qui gagne, une fois, c'est une Red Bull. Mais globalement, si tu prends les classements avec l'arrivée des courses, on a quand même rarement, sauf si on prend Massa, mais c'est encore à part, des Ferrari complètement à la rue, des Red Bull complètement larguées. Elles sont quand même souvent, c'est l'ordre entre les voitures qui changent, mais les équipes de pointe sont toujours des équipes de pointe. Hormis, on a eu effectivement Williams, on a eu Sauber qui a failli gagner. Mais globalement, on a quand même des équipes de pointe qui sont là. L'ordre entre ces équipes de pointe change, mais je trouve pas ça que ça manque de crédibilité. Si Sauber avait gagné, ça aurait peut-être posé pas un problème de crédibilité, mais ça aurait moins parlé aux gens qui suivent la F1 de loin. Parce que Sauber, ça leur parle beaucoup moins.
Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de la hiérarchie. Enfin, certes, bien sûr, au classement, on retrouve les quatre premières. Enfin, c'est naturel. Enfin, tu pourras faire même le championnat que tu veux, aussi spectaculaire que tu veux. Tu retrouveras intrinsèquement les meilleures équipes devant parce que une meilleure équipe, même dans le chaos, ils feront toujours des bons résultats, quoi qu'il arrive. Mais on est habitué quand même depuis très longtemps à voir quand même une certaine hiérarchie se dessiner plus ou moins, à voir que, voilà, cette voiture-là, on a des repères. Aujourd'hui, on est incapable d'avoir les repères. Enfin, même les équipes, quand tu prends Lotus, ils disent, ils comprenaient pas, au soir du Grand Prix Monaco, ils comprenaient pas pourquoi la voiture marchait pas. Lotus, c'est une équipe. Donc les mecs sont quand même censés être bien informés. Les mecs, ils comprenaient pas pourquoi la voiture marchait pas. Moi, je me dis, à ce moment-là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que même nous, en termes d'analyse qui faisons ça régulièrement de la F1, à un moment donné, notre analyse, c'est plus de l'analyse, c'est de la conjecture.
En même temps, c'est peut-être juste cette saison, hein. Non, mais c'est vrai.
Mais moi, je pense que c'est que cette
voilà,
saison.
Si ça se trouve, l'an prochain, on va avoir de nouveau une hyper domination. D'ailleurs, là, on a eu l'année précédente une grosse domination. L'année d'avant, ça a été très serré avec 5. Voilà, faut pas non plus 5.
C'est ce que je disais sur le site fanf1.com. La dernière fois où on a eu une saison aussi disputée avec 5 vainqueurs différents sur 5 constructeurs différents, c'est 83. Ça n'a pas empêché que dès 84, on a eu une domination McLaren qui a remporté, je crois, 7 titres en 8 ans, 9 ans. Voilà, donc ça n'empêche pas que derrière, moi je pense que c'est aujourd'hui, il y a une conjonction de faits qui fait avec les pneus, avec les écarts, avec la technologie compagnie qui a peut-être un peu changé, que ça fait, voilà, que c'est une petite parenthèse et que peu à peu ça va se calmer et que ça va rentrer dans l'ordre.
Je pense que la crédibilité finalement elle se fera à la fin. On verra qui sera champion et là on se dira est-ce que c'est crédible ou pas. Là pour l'instant en cours.
Mais c'est ce que disent Button et Loda. Ils disent que c'est bien au début, mais à un moment donné, il faut quand même que le sport reprenne le dessus, qu'il y ait une logique qui se dégage, et que pour les gens à la fin de la saison, il y ait une certaine logique à ce que ce pilote-là ou cette écurie-là soit champion du monde. Et je pense qu'il faudra à un moment donné dans la saison, sinon les gens vont se lasser de voir tous les gens, des mecs qu'ils connaissent pas.
Enfin, il faudra. Mais
les gens, ils ont besoin.
C'est les pilotes et les équipes de faire en sorte que ça soit comme ça. Hein. C'est pas nous.
Oui. Non mais voilà, mais les gens ils ont besoin de voir que même si ça nous fait chier quand c'est tout le temps même qui gagne, ils ont besoin de voir que celui qui généralement gagne quand même. Bon, il y a pas d'outrage, enfin en dehors de Williams qui est un peu une surprise, mais bon, il y en a eu dans toutes les saisons. Dans les vainqueurs, il y a pas d'outrage, mais il faudra quand même à un moment donné qu'il y ait une ou deux équipes qui se distinguent et qui gagnent un peu plus que les autres.
Steph, t'as pas entendu? Non.
Non non non, tu vois, moi je reste sur une notion que la F1 reste un sport automobile. Mobile, mais un sport, et on parle toujours d'incertitude dans le sport, et non, moi c'est quelque chose que j'apprécie. La logique ou le fait que telle équipe ou telle autre doivent dominer, c'est pas forcément quelque chose il y a une certaine logique à la F1 sur la dominance, sur les capacités techniques d'une équipe, ou à la fin de saison que celui-là qui soit déclaré champion du monde est celui qui a réussi même son équipe à avoir les meilleurs résultats, mais même si cette année on a un champion du monde qui a joué l'épicier, qui a compté ses points ou ses placements, il aura quand même dominé d'une certaine façon pour moi dans ses résultats. le championnat, et ça me dérangera absolument pas. Moi, je vois cette année dans d'autres sports.
Mais rappelle-toi ce qu'on disait de Button.
Ouais, ben il a. Et...
Rappelle-toi ce qu'on disait de Button. On disait le titre est mérité, mais ça a manqué de panache.
Oui. Et... soit.
Et malheureusement, c'est ça aussi, c'est-à-dire que derrière, il faut aussi que le champion.
Enfin, c'est ce qu'on dit sur le coup. Aujourd'hui, on s'en fout. Ce qui
bah
reste,
oui,
c'est
exactement.
Mais ceci dit, tu regardes ici cette année.
Je pense qu'aujourd'hui, ça change parce qu'on a vu ce qu'a fait Button derrière. Mais si Button, il avait rien fait derrière, qu'il avait. Il n'avait pas répété ces trucs-là. On serait resté sur l'idée que c'était un truc de bol. Enfin, comment s'appelle je cherche le prénom. Keke Rosberg. J'ai le nom, mais c'est pas le prénom.
Il est inconnu.
Keke Rosberg. Sincèrement, aujourd'hui, son titre, beaucoup de gens disent voilà, d'accord, il est champion du monde, mais maintenant, c'était au terme d'une saison un peu rocambolesque et compagnie. Il n'a pas volé son titre, mais quand même, ça n'a pas
c'est
la
le...
même valeur.
Enfin, je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est le plus médiocre des.
Mais voilà, alors qu'il, enfin, il le mérite son truc.
Oui,
après, c'est sur l'interprétation et sur le fait que, bah, mine de rien, les gens aiment sentir que, bah, à la fin, c'est les meilleurs qui gagnent.
Non.
Et pas juste celui qui a été le meilleur des autres. Enfin, c'est...
Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que justement, le Keke Rosberg est un bon exemple, c'est qu'au début de la saison qu'il remporte, il est absolument pas connu sur la grille. Tout le monde n'en a rien à faire de lui. Ils le connaissent pas. Il gagne son titre et en fin de compte, il y a l'effet, comme en France on appelle l'effet Poulidor ou autre, où c'est le petit mec qui a réussi à monter et qui a réussi à gagner le titre. Son titre, on s'en rappelle encore. C'est une belle histoire et on se rappelle encore de son titre et on se rappelle encore du pilote. Alors qu'au début de saison.
Si tu compares aux autres, le titre de Keke, demande à plein de gens, le titre de Keke Rosberg,
il
n'aura pas la même valeur que les titres de Senna, il n'aura pas la même valeur que les titres avec des pilotes qui ont dominé leur championnat.
Voilà, pour le fan, pour le fan de F1, mais pour le grand public qui s'intéresse un tout petit peu à F1, le nom de Keke Rosberg va l'avoir marqué, alors que son parcours ou autre n'était pas le plus brillant qu'il y ait eu. C'est comme cette année dans d'autres sports, tu vois Montpellier qui va avoir gagné son titre, ça va pas être la plus grosse équipe. Il y en avait d'autres qui avaient beaucoup plus gros de budget, mais le titre de Montpellier, je t'assure et je suis certain que dans 10 ans, les gens se rappelleront que Montpellier a été champion, même que ce soit qu'une fois. C'est une histoire. Le petit poussé, c'est ce qui intéresse les gens encore plus que le dominateur. Schumacher
restera quand même un sport.
Moi, je pense que sur la grille actuellement, si on prend les pilotes qui sont en lice pour le championnat, ils ont tous déjà prouvé, d'abord certains en ont déjà remporté des titres, et d'autres se sont battus presque jusqu'au bout. On prend Weber en 2010, Massa en 2009, en 2008. Donc ils ont tous prouvé qu'ils étaient déjà capables d'en gagner un, et de se battre en tout cas pour ce titre. Donc quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que ce sera pas un titre au rabais, comme on aurait pu le penser pour Button en 2009.
À moins que Maldonado finisse
parce qu'il n'avait
monde,
pas,
les gars, mais attention.
Oui, sauf grande surprise, mais des pilotes, des top teams.
À moins aussi qu'un pilote ne gagne en ayant signé moins de victoires qu'un autre.
C'est possible, c'est tout à fait possible. Je l'avais évoqué la semaine dernière. Pour l'instant, c'est envisageable.
Ouais, mais ils ont tous la crédibilité pour être champion déjà. Là où Button nous a tous surpris un peu comme un Rosberg finalement, qu'on l'attendait pas.
Oui, on pensait
qu'il
était fini.
Il gagne surtout parce qu'il a sa voiture. Et puis maintenant, en 2010-2011, il a prouvé qu'il pouvait faire jeu égal avec un Hamilton que beaucoup tiennent en haute estime. Et voilà, donc ici ils ont tous une légitimité, une crédibilité pour devenir champion du monde. Bah, à la limite, peu importe comment ils le deviennent, de toute façon ce sera celui qui aura fait, comme d'habitude, le meilleur boulot sur l'ensemble de la saison. Et ici, bah, ce sera au point régulier, c'est tout. À la limite, celui qui aurait le plus de panache, à la limite, actuellement, à devenir champion du monde, et d'ailleurs c'est celui qui est en tête, c'est Alonso, parce qu'il a vraiment pas la voiture la meilleure du plateau, et qui fait des résultats qu'il va chercher, parce que c'est Alonso, et qu'il va chercher le maximum avec ce qu'il a, et qui parvient à tirer de sa voiture plus que ce que pourrait faire un autre pilote lambda, et donc c'est lui qui, à la limite aujourd'hui, si on devait clôturer le championnat, il serait en tête et mériterait le plus ce titre, parce que c'est lui qui va chercher le plus au volant d'une voiture qui est loin d'être la meilleure par rapport à ses adversaires. Mais dans les pilotes dans le top du classement, ils méritent tous, à mon sens, de devenir champion du monde.
Mais après, ça c'est pour 2012. C'est-à-dire qu'il faut aussi raisonner en termes de le spectacle qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas devenir le spectacle que va proposer la F1 à l'avenir?
Je pense
et
pas.
Tout simplement.
Tu vas voir que l'an prochain, il y aura une grosse
on pense pas, mais c'est moi je pense pas que ça va le devenir. Mais est-ce que c'est pas aussi une dérive spectaculaire qui consiste à s'intéresser davantage aux téléspectateurs lambda, à attirer le plus grand nombre de téléspectateurs au mépris parfois du respect des fans historiques qui qui ont des sensibilités. Je suis le premier à dire qu'il faut pas forcément tout le temps, systématiquement écouter les fans, mais il faut pas non plus systématiquement écouter que les téléspectateurs qui regardent la Formule 1, mais quoi qu'il arrive, le jour où ça deviendra chiant, ils arrêteront de la regarder.
Oui, mais le téléspectateur lambda, est-ce qu'il a intérêt, on a failli avoir eu, j'ai plus ou moins évoqué ça tantôt, mais est-ce qu'il a intérêt à avoir une Sauber gagnée? Parce que le spectateur lambda, Sauber, ça lui dit rien.
C'est pour ça que je pense que il y a aussi des points de repère qui sont nécessaires. Aujourd'hui, les points de repère, on les a pas. On les a parce que c'est des équipes qu'on connaît et qui parlent, mais que si ça reste comme ça jusqu'à la fin de saison et que qu'on ne voit pas une écurie ou deux se distinguer en fin de championnat, les gens n'auront pas de points de repère.
De toute façon, je pense que sur la longueur de la saison, il va y avoir des gens qui vont se détacher. On va pas avoir 20 vainqueurs différents. Ici, la seule équipe qui peut encore gagner, qui ne l'a pas encore fait, c'est Lotus.
Et Force India.
Ouais.
Lotus. Et Sauber. Non, mais je suis désolé, mais Sauber.
Oui, mais Sauber, ça sera dans des conditions. Pour moi, Sauber et Force India, ce sera dans des conditions plus ou moins exceptionnelles, comme Sauber a failli le faire en Malaisie. À la régulière, Sauber, peut-être qu'elle pourra monter sur un podium. Force India, à la limite, pourquoi pas aussi. Mais victoire, sauf conditions exceptionnelles, je pense pas qu'elles pourront aller la chercher. Je suis pas sûr qu'on va revoir prochainement une Williams nouveau jouer la victoire. Bien que, comme tu l'as dit, Maldonado a gagné dans des conditions totalement normales. Mais on va avoir, au bout d'un moment, toutes des équipes, 5 écuries plus ou moins, qui vont se détacher des autres, et on va avoir forcément dans ce tas-là une équipe, ici par exemple on a Red Bull qui a déjà gagné 2 fois, qui pourrait encore gagner, qui est en tête du championnat. On va avoir une hiérarchie qui va se faire naturellement.
La grande question, c'est Red Bull a-t-elle vraiment gagné?
Eh ben écoute, c'est bien que tu me dises ça.
C'est la soirée des transitions. On top notre transition.
C'est très beau, je te remercie. Puisque en effet, il y a l'affaire du trou, le Hall Gate. J'ai envie de dire.
Ne dis pas ça quand il y a un Belge dans l'émission.
Ah, pour c'est ça, moyen ça, par contre, c'était moyen.
Alors parlons de Hall Gate, hein. Voilà.
Voilà. C'est Belleville Hall Gate.
C'est vrai. Donc ce fond plat, hein, donc percé. Et donc, dont la FIA a indiqué donc à Red Bull qu'il faut que ça soit modifié, hein, parce que c'est pas possible.
C'est pas légal.
C'est pas légal.
Mais en même temps, on va pas mentir.
Exactement. Faut le dire, c'est un éclaircissement de règlement. C'est-à-dire que avant c'était légal, plus maintenant. C'est à peu près cette logique-là, hein, histoire de dire on n'enlève pas les victoires.
Ouais, non, moi je l'ai mis, c'est pas au-delà de la pseudo-polémique qu'on aurait pu avoir, c'est pour saluer la vitesse à laquelle la FIA a pris une décision. Je suis halluciné. D'habitude, ça prend des plombes. Même quand ils disent c'est légal, il y a des équipes qui viennent râler en disant non, ça l'est pas, machin. Donc, on traîne en longueur, hein. On se souvient de l'aileron arrière de chez Mercedes. Et là, ils ont tranché très vite. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Parce que sinon, le trou, personnellement, je m'en fous. Il y a d'autres équipes qui ont des trous qui sont configurés mais différemment. Qui vont jusqu'au bout du fond plat.
Fermé.
Oui, c'est pour ça que je...
Oui, parce que, en fait, l'encoche est tolérée, mais pas le trou.
Et en plus, le gain est minime.
Red Bull, au niveau de son trou, il coupe pour faire une encoche et c'est bon.
J'espère que c'est clair.
Non, de toute façon, c'est jamais clair.
Mais si le trou va jusqu'au bord du fond plat, c'est bon. Maintenant, ils ont fait un trou qui fait pas toute la longueur, toute la largeur du fond plat. Donc c'est...
Mais il faut qu'il transforme le trou en encoche, c'est ce qu'on vient de dire.
Voilà. Et ce que j'ai bien aimé dans cette actualité-là, c'est la réaction d'Helmut Marko, qui vient dire, de toute façon, on n'avait pas prévu d'utiliser ce fond plat-là au Canada. Genre, on s'en fout.
Mais ça va.
Non, je crois que la FIA a surtout réagi dans le peur de voir Red Bull qui gagne et de se dire que si ça donnait un avantage et de voir une domination Red Bull alors que, justement pour...
Même pas, parce qu'en fait, je pense que c'est rapide à copier.
C'est rapide à copier. et ça prouve
pas. Tu te rends compte, tu te rends compte ce que tu viens de dire? Ça doit être rapide à copier. On parle d'un trou.
Ah voilà, non mais voilà.
Oui, mais en plus, j'ai l'impression que l'avantage que ça procure est minime parce que ça fait quand même plusieurs courses. La polémique est née à Monaco, mais ça, il l'utilisait déjà un peu avant. On n'a pas vu Red Bull voler. Donc, si avantage il y avait, c'était minime. Donc, même Ferrari et McLaren qui protestaient plus ou moins.
N'ont rien dit.
Qui avaient demandé un éclaircissement, en tout cas, à la FIA, estimait que l'avantage de ce trou-là était minime. Donc, c'était un
peu l'eau. Le fait de demander un éclaircissement, c'est juste dire, comme ça, on peut savoir si nous, voilà, on peut le faire. Si ça peut se faire rapidement, voilà, on met le truc à l'autoclave et c'est bon.
Oui, parce que chaque petit dixième, millième compte, mais c'était pas des secondes que ça rapportait, donc.
Mais j'ai quand même une question à Dino. Est-ce que t'as réellement, il y avait vraiment une corrélation entre le titre de ton article et la dernière phrase? Parce que je te jure que ça m'a fait marrer mais d'une force extrême.
Le titre de mon article est la dernière phrase.
Vous l'avez pas lu?
Il y a un second degré. Le Discord et la dernière phrase.
C'est quoi la fin?
Attends. Donc, rappelons que le titre, c'est donc Red Bull et le trou de la Discord. Et la dernière phrase, c'est un porte-parole de la FIA a assuré qu'il y avait des arguments des deux côtés et donc une position devra être prise.
Oui, non, mais c'est sûr, si vous coupez tout le reste qui est entre les deux, forcément, c'est sûr qu'il y a une corrélation entre le titre et la dernière phrase. Non, ça c'est pas volontaire. Mais...
Ah, c'était bien trouvé parce que même moi j'étais pris d'une crise de fou rire quand j'ai lu ça. J'ai fait non, il l'a fait exprès, c'est obligé quoi. Trouver une tournure de phrase comme ça au final d'un tel titre. Et je t'avais posé la question sur Twitter, j'ai fait non, mais c'était parfaitement bien ciblé, hein. Involontaire mais bien.
Non mais sincèrement, non mais c'est quand même, vous avez l'esprit mal dirigé.
Non, c'est quoi?
Avoir lu tout l'article et à la fin tomber sur la dernière phrase, dire oh, dis donc, il y aurait pas de corrélation avec le titre.
Mais on connaît ton esprit, c'est pour ça, c'est
oui,
ça
me dit. Non, pour le coup, c'était ton complètement involontaire. Bon. Surtout que la citation ne vient pas de moi, donc.
À bon moment de tomber, bah justement au fond du trou, passons à une quatrième actu. Et on va parler calendrier, puisque, en effet...
C'est habituel en ce moment, n'arrête pas.
Ah oui, mais justement, c'est le...
Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est jamais les mêmes circuits. Quoi.
Non, c'est le moment calendrier, c'est le moment où j'ai réuni plein d'actu. Hein, avec cette question, est-ce que le calendrier va faire plus de 20 Grands Prix dès 2013? Puisque en effet, on a parlé du Mexique, mais aussi de l'Autriche, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, de la France, du Grand Prix des Amériques à New York, de la Thaïlande, de la Grèce, de la Lune...
La Grèce, c'est plus trop en...
Du Portugal...
Non, moi je suis contre, parce que comment voulez-vous que nous, modestes rédacteurs de Fan F1, on couvre toute la saison s'ils en rajoutent tout le temps au bout du monde? C'est pas possible, financièrement on va pas suivre.
C'est vrai que moi je suis pour, parce que j'ai rien contre voir 24 Grands Prix, ça me dérangerait pas.
Non, moi je crois que ce serait trop long, franchement, 20 c'est bien.
Ça commence à faire long, hein.
Ça commence à faire long. Ici, on a déjà une saison qui débute de mars à novembre. On peut même compter février parce qu'il y a les essais privés et que c'est le début. Ça marque le début du retour de la F1. Donc, on commence déjà à reprendre le rythme à ce moment-là. Février à novembre, je trouve ça bien.
Et puis alors, et bravo pour le côté.
Une pause de 5 mois au mois de.
Bravo pour le côté réduction des coûts, parce que toutes les équipes le disent. Hein. Si on met plus de 20 Grands Prix, il faut qu'on mette deux équipes. Hein.
Bah oui, mais c'est ça. Et puis, par contre, ce que je trouve sympa, c'est de voir des noms de pays revenir comme le Mexique, l'Argentine, des pays qui, historiquement, ont déjà été dans le calendrier, qui ont une culture F1, ça change quand même, ou même l'Afrique du Sud.
Ah oui, c'est mieux ces pays-là, oui, que d'autres.
Bahreïn, ou des pays comme ça.
S'il s'agit, justement, de permettre à des pays historiques, ou en tout cas qui ont des intérêts réels en Formule 1, on peut penser au Mexique et compagnie, de revenir au calendrier sans pour autant avoir supprimé des Grands Prix, je suis d'accord. Après, s'il s'agit de faire un Grand Prix en Thaïlande, au Vietnam ou au Boukistan, faut, à un moment donné, faut le arrêter. Mais voilà, s'il s'agit par exemple de faire revenir le Mexique, moi je suis pour, parce que le Mexique, il y a un pilote mexicain, il y a des investisseurs mexicains. L'Afrique du Sud, c'est un Grand Prix historique, donc d'accord. Maintenant, la Grèce,
j'ai sorti la Grèce, mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler.
Non, la Grèce, mais il y avait un projet.
C'est vrai, il y en avait un.
Mais la Grèce, la Thaïlande.
Dans ce cas-là, je serais pour éventuellement un système d'alternance. Pourquoi ne pas une année aller au Mexique, l'année suivante aller en Argentine, dans des pays où on a une vraie culture F1, des vrais circuits. Enfin, en Argentine, c'est pas
parce
encore
que
sûr.
Tu veux faire un truc comme en rallye où alternance signifie ah les gars, ça veut dire qu'on va devoir faire l'alternance pour Monaco? Bah oui.
Non, pas forcément. Non, pas forcément pour tous les grands prix, mais.
Ah, mais tu fais un grand prix d'Amérique latine, par exemple.
Oui.
Ou le grand prix d'Amérique du Sud, et comme ça, tu peux servir les nations.
Ah, moi, je suis pas chaud, comment dire, aux alternances d'un circuit à l'autre. J'aime bien, au moins, on garde assez rapide, bien le souvenir de la saison précédente et donc de la course qui s'est passée sur le circuit, de voir essayer de se rappeler d'une course qui a lieu il y a 2 ans. Alors qu'on a toujours un petit relent sur l'année précédente à se dire tiens, il s'était passé telle chose, est-ce que cette année va pas y avoir le même combat ou ils se sont trouvés dans telle situation. L'alternance, c'est pas une chose qui me branche de voir. J'ai quand même plus un attachement sur les circuits en eux-mêmes. Et non, ça me ferait mal de devoir chaque année composer avec des tracés différents à chaque saison. Et en plus, les alternances sont-elles faites pour durer? Ça se peut qu'on fasse le Grand Prix en Argentine, on ait deux alternances et après on se retrouve avec un Grand Prix au Chili ou autre. Et au final, on aurait que deux courses au Mexique ou...
Bon. Non, non, moi je suis pour l'alternance dans des vrais pays.
En même temps, ça évite...
Parce que tu vois, je prenais l'exemple du WRC, c'est vrai que il y a eu des systèmes d'alternance où parfois bah c'était l'alternance entre un rallye bien et puis un autre bon d'accord. Donc j'ai un peu c'est un peu ça dont j'ai peur et ça fait en plus un côté il y a des années entre guillemets où t'as plein de circuits vachement bien et puis bon l'année d'après bah tu sais que pendant un an tu vas te taper des trucs oh mon dieu. Voilà, c'est... Après, il y a aussi une question, est-ce que une saison vaudra pas plus qu'une autre par rapport au circuit auquel on est allé?
Oui, bah maintenant, il faudrait réfléchir à pour qu'il y ait un équilibre entre des circuits... on va pas dire entre des bons circuits et des circuits pourris, mais qu'il y ait un équilibre quand même entre des circuits qui se valent plus ou moins, quoi.
De toute façon, apparemment, Bernie Ecclestone, il aurait pour amadouer les équipes et les faire qu'elles acceptent ça, il leur aurait donné une sorte de droit de veto qui fait que si jamais, dans tous les cas où en fait une saison dépasserait, il y aurait moins de 60% de pays européens au calendrier, ce qui est déjà le cas puisqu'il y a 9 grands prix, je crois, européens pour 20 grands prix dans la saison, donc on est déjà loin des 60%. Mais pour le cas où il y aurait moins de 60%, on demanderait l'autorisation aux 3 équipes les mieux classées sur les 3 ou 4 dernières années, je crois, pour les nouvelles destinations. Donc d'ici, c'est-à-dire que c'est ouvrir la possibilité à plus de 20 pays, mais grosso modo derrière, c'est on va ouvrir la possibilité à plus de 20 pays, mais il y aura quand même pas n'importe quel pays qui pourra rentrer, puisqu'il faudra respecter la règle des 60% européens, 40% extra-européens.
Il y a un côté un peu ménager le chèvre et le chou, c'est-à-dire un côté un peu la politique actuelle est un échec, de dire voilà, on a augmenté le nombre de grands prix en mettant des destinations exotiques, ça a marché moyennement.
Mais c'est là où il y a l'argent.
Oui, voilà, non, mais ça a marché moyennement parce que, et là, d'un coup, il y a des pays, on va dire, historiques qui se ramènent en disant « Tiens, on aimerait bien un gros prix, jetons-nous dessus !» Il y a quand même un peu, je trouve, un constat d'échec par rapport à ce qu'a été la politique au niveau du calendrier depuis 10 ans.
Mais c'est le truc, c'est que justement, dès le départ, Bernie Ecclestone, il a pensé à agrandir la surface financière et la visibilité à conquérir des nouveaux publics, en oubliant qu'il y avait quand même un public très important, qui est majoritairement le public fan de Formule 1, qui s'appelle l'Europe, et que ces gens-là commencent à se sentir un peu isolés. Et que c'est là où on arrive sur la partie vraiment traditionnelle des fans, ce qui relaie un petit peu le débat qu'on avait tout à l'heure sur la crédibilité de la F1, c'est que il y a quand même des fans européens aujourd'hui qui disent: la Formule 1, s'il n'y a pas les circuits européens, c'est plus vraiment la Formule 1. Voilà, on veut bien aller en Chine et compagnie, mais nous retirez pas Spa, nous retirez pas Monza, nous retirez pas même le Grand Prix de France et compagnie. Donc voilà, moi je suis pour si ça permet de respecter, d'avoir plus de Grands Prix européens. Après, il suffit juste de mieux raisonner le calendrier, pourquoi pas de revoir même le format des week-ends pour faire des week-ends sur deux jours, sur trois jours. Voilà, pour essayer de tout remettre correctement dans l'ordre. Ça pourrait peut-être même dynamiser les week-ends. Là, sur trois jours, c'est très long. À faire du week-end, à la rédaction, on est rincé au bout de trois jours.
Mais attention, parce que si c'est sur trois jours, ça va être plus intense, hein.
Je sais pas.
Mais c'est vrai
vraiment,
que
tu fais essai libre
le samedi
et qualification le dimanche matin.
Il faut trouver la place, parce qu'il y a quand même le GP3, le GP2 et les Porsche, hein, aussi souvent les week-ends. En tout cas, en Europe. On peut virer les Porsche.
On peut virer le GP3.
Ah bah non, ils vont avoir un nouveau moteur plus puissant en 2013, je crois.
Todd, il veut limiter le nombre de disciplines d'accessite.
Ouais, mais je trouve pas ça excellent comme idée, moi. Ça voudrait dire qu'on perdrait, on va dire, entre le GP2 par exemple, les World et les World Series, qui sont quand même deux championnats assez intéressants, on va en perdre un. Et ça diminue aussi les chances pour les jeunes pilotes. Ça veut dire que les jeunes pilotes c'est déjà pas facile d'arriver en F1. C'est-à-dire qu'ils vont avoir encore plus de mal à accéder aux échelons inférieurs. Je trouve pas ça, Voilà. Ouais. Parce que tu peux faire une belle carrière en enfin, tu fais pas carrière en World Series ni en GP2, mais ça peut te permettre quand même de te montrer.
Il y en a qui essayent.
Ouais, il y en a qui essayent.
En GP2, ouais.
Ça peut quand même te permettre.
Marcel Dado, il a essayé de faire carrière.
Ça peut quand même permettre de te montrer dans des disciplines inférieures et d'aller faire carrière ensuite, si pas en F1, ailleurs, dans des disciplines catégories, même aux États-Unis, au Mans, en endurance, etc. Donc, je suis pas sûr que supprimer la Formule 2, oui, parce que c'est un championnat qui ne sert à rien. Mais il y a des...
Voilà. Mais c'est pour ça qu'il veut limiter, c'est parce qu'il il aimerait que ce soit des championnats FIA.
Oui.
Il y en a pas le championnat FIA qui sont couplés à la F1, c'est que les championnats Bernier-Ecclestone.
Parce que la Formule 2 a été faite pour, à la base, concurrencer le GP2, sauf que les voitures ressemblent à GP3. C'est complètement ridicule. Oui, parce que dans le discours de Todd, c'est Formule 3, Formule 2, Formule 1. Hein. Donc, effectivement, ouais. Les formules promotion de Bernie... passe à la trappe, mais bon.
Oui, c'est surtout celles-là qui sont menacées. Paradoxalement, entre le GP2 et le Formule 3.5, pour Todd, c'est pas forcément la 3.5 qui est menacée.
Ah bah non. Non, pour Todd, il a d'autres projets.
Et messieurs, pour la dernière actu, on va aussi parler d'un Grand Prix, c'est le Grand Prix du Canada, qui est menacé. Alors, qui est menacé par plein de monde, hein, qui est menacé par les étudiants, qui est menacé par Anonymous, c'est pire que le Bahreïn, le Canada.
Non, moi j'ai lu un article d'un journaliste québécois, un québécois qui a écrit un article sur je sais plus quel site internet, le site internet d'un quotidien québécois. Ça m'a énervé de dire qu'en gros c'était honteux de venir étaler ce fric au Canada, de venir ramener ses poufs sur les grilles de départ, enfin un truc d'une subjectivité sans nom, ça m'a énervé. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour.
Non mais c'est vrai que la F1 même là au Canada commence Canada, Bahreïn et pour faire un jeu de mots avec ce qui se passe au Québec, c'est commence à se traîner des casseroles au derrière quoi. Et non moi je suis pas, moi ça m'étonne pas, et je trouve ça.
Le football va en Ukraine alors qu'il y a une opposante politique
qui
refuse des soins et compagnie. Enfin c'est pas la F1 qu'on est responsable, c'est les pays. Ne rejetons pas la faute sur les championnats qui sont des championnats contractuels. Si aujourd'hui des gens sont réprimés dans des pays, c'est pas la faute de la Formule 1, c'est parce qu'il y a des pouvoirs qui sont cons.
Et moi ce que je veux dire, simplement que les gens veuillent utiliser en porte-voix la médiatisation de la F1, bah je trouve pas ça bête quoi.
On est quand même en train de parler de militants qui disent qu'ils veulent venir perturber le Grand Prix.
Ouais.
Ils
vont pas mettre le feu au camion, ils vont pas mettre le feu au Formula, ils vont faire quoi? Ils vont retarder le Grand Prix d'une heure. Ils vont faire des.
Non mais enfin ils ont quand même les organisateurs ont quand même annulé la pit walk du jeudi, donc c'est qu'il y avait quand même suffisamment d'inquiétude que pour le faire. C'est quand même dommage pour les fans qui viennent sur le circuit, pour qui c'est l'occasion d'avoir un autographe d'un pilote et ce genre de choses. Là où je suis d'accord avec Steph Corr, c'est que les dirigeants n'ont pas forcément besoin de la caisse de résonance et de la présence médiatique de la F1 pour pouvoir se faire entendre, là où les manifestants profitent justement de cette médiatisation pour porter leur voix un peu plus fort. Maintenant, là où qui profitent de ça pour se faire entendre,
mais est-ce qu'ils ont raison d'utiliser, je suis pas d'accord.
Qui profitent de ça pour se faire entendre, d'accord. Maintenant, qui perturbent en soi la course et ce genre de trucs, là je suis moins d'accord.
Tout à fait.
Bah, ça va
qui profite pour se faire entendre mieux, pas de souci, mais qui profère des menaces et qui disent on va venir foutre le bordel, je trouve que non seulement c'est pas utile et en plus ça donne pas une bonne image d'eux. Donc ça, finalement, ça les dessert plus qu'autre chose. Moi je trouve.
C'est d'ailleurs là ce qui est perturbant, c'est que j'entends parler de menaces, j'entends parler d'Anonymous qui veut bloquer les sites, etc. C'est des trucs, ça fait peur quoi. Et derrière en fait quand tu regardes ce qui se passe sur place, bah les gens ils manifestent calmement tous les soirs, ils marchent dans les rues, ils font du bruit avec des casseroles, il y a pas de violence, clairement il y a pas de violence. Après il y a des débordements, mais comme dans toute manifestation. Donc c'est à dire que on va justement donner un caractère violent à un mouvement qui ne l'est pas nécessairement. Enfin je vois pas ce que en
pourquoi quoi ça serait violent. Il y a rien de violent s'ils viennent.
Non mais l'image de perturber une épreuve, si c'est pour
c'est nous, pas forcément une violence physique.
Voilà, c'est pas forcément une violence physique, mais c'est quand même quelque chose de très fort, perturber une course et compagnie, envahir le circuit ou je sais pas quoi, ou venir manifester dans une épreuve sportive, ça restera quand même malgré tout une image qui fera des tours du monde et compagnie et qui donnera l'impression d'un coup de force. Là où justement, c'est pas une force, c'est plutôt pacifique ce qui se passe au Canada. C'est plutôt des gens qui sont en colère, qui manifestent, qui font du bruit, compagnie, mais qui pour le coup sont plus dans un mouvement d'usure que dans un mouvement violent, enfin violent au sens violent
moralement, quoi, pas physiquement.
Et de toute façon, moi, pour arriver à perturber la course et à perturber, empêcher, à retarder le départ, ils vont devoir passer toute une série de barrières de sécurité qui fait que ça ne peut pas se faire de manière pacifique. De manière totalement calme. Et dans, on parlait de manifestations.
J'ai Faut été, déjà qu'ils arrivent sur l'île. C'est con
déjà,
à dire, mais.
Mais j'ai été à Barcelone pour le Grand Prix. Le soir, je voyais les informations, en rentrant à l'hôtel. Avec des gens qui manifestaient, parce qu'en Espagne, ils manifestent depuis des mois. Et donc, forcément, à Barcelone, ça manifestait tous les soirs. On n'a eu aucun problème avec le Grand Prix. Personne, à aucun moment, n'est venu dire, on va s'en prendre à la F1, on va s'en prendre au Grand Prix. Ça les a pas empêchés de manifester dans les rues, dans la ville. Pendant le week-end du Grand Prix, comme ils le font tous les week-ends depuis
et
des mois.
Dans tous les pays, il y en a comme ça. Enfin, voilà. C'est ça aussi le risque derrière, c'est que si on autorise ça, le risque derrière, c'est que chaque groupe manifestant, que ce soit en France, les manifestations qu'il peut y avoir, on est un pays de manifestation, mais aussi en Angleterre, se sentira libre de dire, bah écoutez, on peut s'attaquer à une épreuve sportive, voilà. Enfin, il y a quand même un degré à garder. Certes, c'est un moyen de se faire entendre, mais restons dans le cadre médiatique seulement et pas dans le cadre perturber l'épreuve.
Mm-hmm. Ouais, perso, ça me dérange pas, même si le bloc, ça va faire quoi? Ça va faire refroidir mes pop-corns en attendant le départ ou non? Sincèrement, moi, si une voix peut porter ou même si Anato.
Alors justement, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que ça va faire refroidir tes pop-corns. Ça va rien de changer. Donc, grosso modo, à quoi ça sert qu'il bloque? Si toi, en tant que spectateur, ça ne te change rien.
Bah, moi,
ça
moi, peut pas prendre conscience. À mon niveau, qu'est-ce que tu veux que j'agisse à mon niveau? Je vais faire quoi?
Tu crois
que je vais me déplacer quoi? Je vais aller au Québec, je vais choper le Premier ministre québécois et lui dire tu changes la loi? Non, je serai dans mon canapé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est impossible que j'ai le moindre agissement qui puisse faire quoi que ce soit pour changer la situation. Mais si eux, cet agissement, ça leur permet de changer la situation, moi je voilà, j'ai pas de moyens pour agir directement sur leur cause, mais si leur moyen est de pouvoir faire agir, c'est de le fait de retarder la course ou de faire un sitting ou autre, j'y vois pas de mal. Ça va faire quoi? Ça va me changer juste mon après-midi du dimanche pour qu'une cause puisse évoluer et qu'ils aient la possibilité d'effectuer des études dans un cadre correct.
Oui, mais ça peut pas se faire dans le calme. Ça ne peut pas se faire dans le calme.
C'est pas possible. C'est pas fait dans le calme à Bahreïn.
Pour arriver jusqu'à la grille de départ, tu peux pas arriver sur la grille de départ sans passer par des hordes de trucs de garde de sécurité. Ça ne peut pas se faire dans le calme.
À partir de ce moment-là, ça sera pas les étudiants qui iront à la confrontation.
Ils ne rentreront pas sur le circuit. S'ils ne font pas la confrontation, ils n'iront pas sur la piste.
Sincèrement, je suis désolé, Steph Coeur, mais quand tu tombes dans un truc de manif avec d'un côté les CRS et d'un côté les étudiants, il faut arrêter de dire que c'est tout le temps les CRS qui mettent sur la gueule des étudiants.
Ah non.
Comme là, en Syrie, on a des événements en Syrie où on met tout sur le compte de Bachar al-Assad. C'est pas forcément nuire aux protestataires que de reconnaître que du côté des protestataires, du côté des révolutionnaires, il y a aussi des exactions et que dans chaque côté, il y a des extrêmes. Pourquoi est-ce que forcément ça n'irait que du côté de... Quand il y a une confrontation, il n'y a pas ceux qui prennent des coups et ceux qui n'en mettent pas.
Pour arriver sur la grille des zones de sécurité, il n'y en a pas.
Si ça dégénère, c'est parce que les deux camps auront été cons.
Mais moi d'un côté je vois un combat juste et de l'autre voilà, et c'est pour ça moi je suis.
Parce que c'est là où, enfin, on est bien d'accord que le combat derrière, on peut juger le combat, mais notre tâche à nous en tant que commentateurs de la F1, enfin analyste de la F1 et même de la F1, on n'a pas à prendre parti. C'est ça, on peut avoir une caution, enfin voilà, moi leur mouvement quand j'écoute leurs revendications, il y a des choses qui me parlent. Maintenant, c'est sur le moyen d'action. Voilà, est-ce que c'est l'endroit pour le faire? L'AF1 doit quand même rester quelque chose d'universel qui c'est peut-être con à dire, mais qui quelque chose qui reste entre guillemets neutre. Le problème, c'est que dès qu'on commence à mettre de la politique dans le sport, ça dégénère derrière.
On va passer à l'actu dont tout le monde se fout.
Ouais, je suis gagnant.
Oh.
J'ai un point, deux points, trois points.
Non, ça va, cette semaine, en fait, il y a eu peu d'actualités citées, hein, parce qu'en total, j'en compte 12, vous voyez, donc ça fait 5 sur 12, il n'y en a que 7. C'est un petit score, cette semaine. Alors, on va commencer par Steph, hein, la dernière fois, on a fini par Steph, là, on va commencer par Steph, hein, qui nous a cité l'interdiction des essais privés, source d'incertitude.
Facteur d'incertitude.
Ah oui, d'accord, oui.
Facteur d'incertitude. Si t'as un peu le titre correctement, déjà que j'en écris pas beaucoup.
J'ai fait un copier-coller du titre. Donc, c'est pas
non,
moi
c'est
qui
facteur d'incertitude.
Hein. Ah, moi, c'est pas moi qui gueulais. Hein, c'est... Bah,
c'est moi qui ai dû le...
Ouais, bah voilà, ça fait plaisir, non, merci.
Tu te rends compte, on se casse le cul, et les gens derrière, ils sont même pas capables de reprendre nos... Voilà, ou alors ils voient des trucs graveleux dans nos titres. Mais franchement, tu vois.
Nous avons aussi la cotation de la F1 repoussée à la fin de saison.
Ah ça, je m'en fous, moi. Moi, j'ai déjà trouvé mon actu, donc je me fous. Hein.
Comme quoi, hey, comme quoi, on a quand même bien fait d'en parler pendant deux émissions. Pour au final que... ça nous intéresse pas puisque ça sera pas cette saison.
Un jour ça passera.
Mais même si ça passe, moi je m'en fous personnellement. Donc c'est le genre de truc, ça me parle pas.
Fab nous a donné Vettel chez Ferrari en 2014. Un grand classique, j'ai envie de dire.
Ah.
Non, ça. Moi, ça fait que... plaisir, ça, on est d'accord.
Hein. Non, mais ce qui est quand même terrible derrière, c'est tout le monde dit non, mais il y a pas de contrat, il y a rien, Vettel, il dément. Et derrière, c'est Marco qui dit oui, alors il existe une option qui permet à Sébastien de partir en 2014 si les résultats en 2013 sont pas à la hauteur. Et pas dit. Donc le mec, tu sais, il va arrêter les rumeurs, mais quand même, il leur rajoute une couche. Quoi.
Nous avons aussi, alors cité par deux personnes, hein, Gus Gus et Ben, Dimonte Zemolo, PRS trop inexpérimenté pour rejoindre Ferrari.
Oui, c'est une bonne actu, ça.
C'est vrai, non, c'est... Elle aurait pu...
Moi, je l'avais associé avec Perez qui disait dans la foulée, ou juste avant, enfin, les articles se sont suivis, qu'il était prêt à piloter pour une équipe de pointe.
Nous avons aussi Mercedes en confiance pour le Canada.
C'est peut-être bien moi qui ai mis ça, non?
Oui, c'est toi.
Ah mais il est fan de Mercedes, ce mec, oui, c'est pas possible.
Moi, je vous dis, c'est celle-là. Moi, c'est les articles bateaux, quoi. C'est, ah ouais, on est content, oui, on espère faire un bon résultat, ramener des points.
Non, mais sauf que eux, ils peuvent vraiment en faire, hein.
Oui, mais bon, tu changes, t'effaces Mercedes, tu mets McLaren, tu mets Ferrari, tu effaces.
Oui, mais les autres, c'est des mythos.
Ah oui, non mais c'est le sport, c'est-à-dire que forcément,
il y en a un qui ment. Il y a quelqu'un qui a remarqué quand même sur Fan F1 que sur trois bilans, et les trois disaient « la voiture devrait bien se comporter ici ». À chaque fois dans les previews, c'est bon, là, on les fait parce que c'est toujours intéressant, des fois il y a des bonnes déclarations. Mais quand même derrière, ils nous disent tous la même soupe, quoi. C'est « la voiture va bien se comporter » et compagnie.
C'est comme en foot, c'est le... oui. Nous sommes contents d'avoir amené les trois points. Ouais, bah, t'as gagné, quoi. Sinon, une autre actu, alors qui est assez fraîche, hein, je trouve qu'elle est tombée, je crois, hier. Une seule zone DRS au Canada. C'est pas plus mal, d'ailleurs.
Bah oui, parce que c'est du coup, parce que l'an passé, c'était un peu comme à Abu Dhabi. La deuxième annulait la première, ce qui était con. Donc là, on en aura qu'une. Encore une bonne
décision. Ça sera avant les stands ou celle sur la...
Avant les stands. Avant les
je pense stands, que c'est avant, ouais.
Elle sera plus courte que l'an dernier. Enfin, que ce qu'était cette portion de l'an dernier, elle sera de... Enfin, on pourra déclencher des DRS 600 mètres avant le point de freinage. Alors que l'an dernier, c'était 650 mètres.
Ouais, ça a changé beaucoup de choses.
Ouais. De toute façon, Gianpaolo Dallara de chez Sauber a dit ça changera rien. Ce soir, à Montréal, on dépasse. Donc, cet endroit-là.
Oui,
donc,
bah ouais.
Alors, voilà. Moi, sincèrement, il y a des endroits où je me dis DRS, faudrait pas le mettre, quoi, parce que voilà.
Bah oui.
Canada, bah, c'est pour le mettre dans la ligne droite où on dépasse le plus. Bah, autant pas le mettre, quoi. Autant l'interdire et basta, quoi.
Ouais, ou à Monaco où il sert à rien. Ou...
Voilà.
Dino, tu nous as cité des pneus pour les qualifications.
Oui.
Ah, j'ai voulu la mettre, puis je me suis dit, ils en ont déjà parlé dans le SAV après Monaco. Donc,
oui, c'est vraiment, un truc dont on parle régulièrement. C'est peut-être que ça va enfin se faire d'ailleurs. Hein. C'est espérons.
Mais moi, je trouve qu'avoir à la limite un train de pneus en plus en qualif, bah si c'est pour que tout le monde sorte, je trouve pas ça que ce soit une mauvaise idée. Maintenant, faire repartir tout le monde avec des pneus frais en début de course, moins. C'est mais ça, avoir un train de plus en qualification, là,
c'est ça le truc. C'est le problème, c'est que tu repars en début de course avec un train neuf, donc du coup ça annule toutes les stratégies. Enfin, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de bonne solution.
Ah bah non, c'est forcément un choix.
Je pense qu'il faudra le faire en milieu de saison, il faudra attendre la fin de saison et faire une vraie réflexion sur voilà, là la donne des pneus, là les conséquences sur les qualifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre aux qualifs leur côté moins spectaculaire, mais plus dans la performance et pour vraiment que les voitures rapides soient devant.
Oui, mais si tu rajoutes juste un train de pneus en qualification, tu vas quand même devoir partir le lendemain en course avec tes pneus que tu auras utilisés en qualif. Mais tu ne verras pas te dire ah ouais mais tu ne verras pas te dire le samedi ah mais je sors pas parce que je vais pas user ce train de pneus là parce que j'en aurai plus des neufs. T'en auras quand même toujours suffisamment de neufs pour la course et tu devras quand même utiliser le train de pneus de qualif en début de course pour ton premier relais, mais t'auras toujours derrière suffisamment de pneus neufs que pour te dire que le samedi bah tu sors.
Mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui en l'état, le règlement il stipule que tu dois remettre les pneus de qualif. Sauf que comme les pneus qui vont te permettre de faire, enfin le train de pneus supplémentaires, qui théoriquement vont te permettre de faire le meilleur temps, tu vas devoir les rendre après les qualifs. Tu vas reprendre quel pneu après?
Ah non, mais moi je suis pas pour qu'on les rende après les qualifs. Tu as un train de pneus en plus en qualification. Tu utilises ce train de pneus là pour faire ton meilleur temps. Tu pars avec en course.
Et les trains de pneus qui te restent. Le stock de pneus, quoi.
Voilà, tout. Donc du coup, finalement, en course, t'as un train de pneus en plus aussi.
Enfin, ça obligera pas forcément les pilotes à sortir. Parce qu'ils préféreront économiser des pneus. Enfin, je suis pas sûr que ça oblige les mecs à sortir.
Bah, attends, l'argument qui
s'ils auront cours, c'est ici, parfois, ils arrivent trop court en se disant, ah ouais, mais si je sors avec celui-là, j'ai plus du tout de train de pneus neuf.
Voilà. Donc,
Tandis qu'ici, avec un train de pneus en plus, bah, ils auront quand même toujours le train de pneus en plus, qui sera neuf.
Bon, tu verras qu'il y en aura toujours qui font quand même, qui diront, allez, comme ça au moins j'ai plus de pneus neufs, je pourrais faire plus de pneus, je pourrais utiliser plus les pneus tendres.
Non, sinon il y a des trucs qui sont comme Vettel qui disent, je vais pas.
Alors que là, pour le coup, si tu donnes en début de Q3, que tu les reprends à la fin de Q3, le mec, c'est soit ils utilisent, soit ils utilisent pas, mais de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, s'ils utilisent pas, ces pneus, ils ont servi à rien. Donc autant qu'ils les utilisent, donc les mecs sont obligés de sortir.
Sinon,
alors que là, pire, les mecs vont toujours quand même calculer.
Au pire, tu fous 10 places de pénalité aux pilotes qui sortent pas en Q3.
Oui.
C'est tapé dur, mais.
Bah, c'est sûr que le mec qui veut faire comme Vettel à Monaco, qui se dit je vais pas sortir parce que de toute façon je vais mettre les durs en début de course, ou comme il a fait, c'était en Espagne peut-être, qu'il a monté les durs. Bah effectivement il sortira pas forcément faire un tour avec ses tendres ou même avec ses durs en se disant de toute façon je vais quand même être derrière, ça sert à rien de sortir.
Mais le mieux c'est de revoir tout le format qualif.
Mais là encore, c'est des choix. C'est des choix. Il y a pas de modèle parfait. Hein. C'est des choix. Qu'est-ce qu'on veut? Et enfin, Dino, tu as cité les revenus des pilotes. Mais... Oui, Steph.
Non, je voulais simplement dire, c'est si vous avez la possibilité de réécouter le passage que vous venez de faire juste avant, vous comprendrez mieux pourquoi il y a des gens qui, même des nouveaux, qui essaient de s'intéresser à la F1, qui arrivent pas du tout, parce que entre les pneus anciens qui sont remis, mais on remet parce que les D9 pour reprendre des, à un moment ça. Non, ce que je veux dire, c'est que ça commence à tourner ridicule. On en arrive au point extrême où les mecs ils sortent plus des stands pour conserver un train. Et même peu importe les modifications qu'on fera, ils essaieront toujours d'avoir un train neuf supplémentaire, donc ils sortiront pas pour autant. Ça commence à tourner vraiment ridicule.
C'est pour ça que je pense qu'il faut reconsidérer tout le format des qualifs. Je pense que ce format en trois phases, il est très bien. C'est sans doute l'une des meilleures idées des dernières années dans les formats des courses. Maintenant, avec les pneus actuels, il n'est pas adapté. Je pense que on verra peut-être des qualifs plus intéressantes si on revient à un format de 12 tours.
Mais le règlement,
quoi, arrive, tout le monde fera au moins un tour pour se qualifier.
Le règlement n'est pas adapté. Ouais. Plus que le règlement lui-même, c'est les pneus. Le problème.
Non,
parce que les pneus sont bien pour la course.
Oui, non, mais si tu ne devais pas partir le dimanche avec les pneus que tu as utilisés pour ta Q3, il n'y a pas de problème. C'est le règlement au niveau des pneumatiques qui pose problème en Q3.
Mais dans ce cas-là, c'est ce qu'explique Rose Brown, c'est que le fait de garder les pneus, c'est que du coup, les pilotes qui sont classés devant, qui ont fait les meilleurs temps, partent avec des pneus un peu plus usés, donc du coup un peu moins performants. Là où les mecs qui sont moins performants en qualification ont l'avantage d'avoir des pneus un peu plus frais, donc du coup ça offre des options stratégiques. Donc si tu permets aux équipes de la Q3 de repartir avec des pneus neufs, tu annihiles un petit peu les différences de stratégie.
Ou alors tu les obliges à partir
avec... Tu vas voir tout le monde sortir avec les pneus durs dès le départ, et puis les stratégies vont être quasiment les mêmes pour tout le monde. Il s'agira de savoir qui va sortir le premier. L'imprévisibilité ajoute du fait qu'il y a, entre guillemets, un règlement qui est à double échelle aujourd'hui.
Ouais.
Messieurs, concernant l'actu dont tout le monde se fout, donc je répète, la dernière, c'était les revenus des pilotes, c'est un article qui est sorti spécifiquement avec un rappel. Non, c'est pas toi. Mais j'ai pas dit que c'était toi, c'est Dino.
Ouais. Ah, t'as parlé d'argent?
Oui, mais c'est pas toi.
Je sais pas, mais en même temps, je m'en fous aussi des salaires des pilotes parce que globalement, on nous sort des chiffres différents deux fois par an, donc. Oui. Moi, je me souviens, dans cette liste, j'étais marqué par les 3 millions de Glock, quand même, chez Marussia. Mais sinon, ouais, globalement, je m'en fous un peu. Mais non, je crois que c'est la bourse, moi. Parce que franchement, je m'en fous.
Je pense que je l'ai mis parce qu'en fait, il y avait un bon débat sur FanF1, notamment la comparaison avec les footballeurs, sur le fait que, est-ce que 30 millions pour un pilote de Formule 1, ça nous semble plus juste que 30 millions pour un footballeur et compagnie. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait une possibilité de débat intéressant.
Non mais c'est sympa d'avoir effectivement une idée de fourchette, mais c'est vrai que, j'ai pas l'impression que ce soit des chiffres
Voilà, c'est le salaire de base, ça tient pas compte des primes, ça tient pas compte des revenus publicitaires.
Ouais, bah oui.
Voilà, on sait très bien que par exemple Alonso a une grosse base.
Oui,
mais que derrière, il y en a qui ont des primes et compagnie qui leur permettent de revenir pas très loin.
Dino, Steph Core, non, l'actu dont vous foutez.
Ah, pour ma part, c'est Mercedes en confiance pour le Canada, quoi. Parce que,
ah ouais.
C'est comme tu disais, c'est ouais, c'est on prend les matchs les uns après les autres. On était voilà, tu vois, c'est ouais, c'était cela, quoi. Vraiment l'article, ouais, un peu bateau. Il y a pas de fond, quoi. C'est on sort des phrases toutes faites et voilà, quoi. On essaie de donner confiance et de se donner une bonne image, mais ouais, non, je l'ai survolé, hein, j'avoue, cet article-là, je l'ai survolé, parce que rien qu'à voir le titre, je me suis dit, ouais, c'est bon, on va avoir droit à tous les poncifs possibles, imaginables.
Bah, c'est les previews, hein.
Donc, ouais.
Bah, ouais.
Donc, quel est l'actu principal, hein?
Mais moi, je t'ai dit, tu t'en fous.
Mais t'as pas répondu, aussi.
Mais j'ai pas répondu parce que Steph Core parlait.
Bon, bah, réponds.
Bah non, maintenant j'ai plus envie.
Bah voilà.
mais c'est je sais pas ce que je m'en fous de plus. La cotation de la Formule 1, enfin on en a parlé déjà deux fois, on va pas en reparler trois fois, quoi.
Ah non, vous en avez jamais parlé, vous avez jamais abordé le sujet un jour ou l'autre, il faudra y venir.
Parce qu'à chaque fois ça tourne
la cotation de la F1, on en a parlé.
Non mais à chaque fois ça tourne dans les actus dont on se fout.
Ouais, voilà, à chaque fois ça tourne.
Ah voilà, mais on en a déjà trop parlé, tu vois.
Un jour, vous y viendrez. J'y arriverai.
Donc, comme chaque semaine, hein, vous avez la possibilité de choisir hein, pour quel est l'actu principal hein, du Mac. Donc, on vous rappelle...
Tu prends l'actu principal.
Oui. Pourquoi? Vous voulez qu'on mette les autres?
Je sais pas, il y a des belles actus bien chiantes, quand même.
Vous voulez qu'on mette les actus bien chiantes cette semaine?
Bah, peut-être pas toutes, mais on peut faire un tri.
Oh, mais non, attends, non. Si on...
Ah non, il y en a 7,
ah
là.
Ah bah, si je les mets, je les mets toutes. On va pas passer un quart d'heure à choisir 5 sur 7. Alors là, non.
Ah non, mais on
je
en vient
tout de suite. Ah non. Je dis tout de suite.
Moi, j'y vois pas contre.
Bah vas-y, mais les 7.
Moi, je m'en fous. C'est de bon ton, je m'en fous, donc.
Non, mais
ouais,
7,
pareil.
On va avoir des petits chiffres.
Ouais.
On va avoir les trucs qui vont faire 0,25%.
Au moins, on verra si la cotation est quelque chose qui déplairait aux gens. Au moins, ça permettra de voir ça.
Ah non, mais on parle pas des gens, on parle de nous.
Ouais, moi, nous, personnellement, on s'en fout.
Après, les gens, ils peuvent aimer, c'est leur problème, si ça les intéresse.
Donc, cette semaine, exceptionnellement, hein, on va vous demander quelle était l'actu dont tout le monde se fout, donc surtout l'actu dont vous vous foutez hein, cette semaine. Donc, je vous fais un dernier petit topo. Attention, il y a du choix cette semaine. L'interdiction des essais privés, facteur d'incertitude. La cotation de la Formule 1 repoussée à la fin de saison.
Les gens ont déjà voté.
Vettel chez Ferrari en 2014. Dimonté de Zemolo, Perez trop inexpérimenté pour rejoindre Ferrari. Mercedes en confiance pour le Canada. Une seule zone DRS au Canada. Des pneus pour les qualifications ou les revenus des pilotes. Si vous êtes passé par le site FanF1B, non, vous avez déjà vu le sondage, vous avez déjà voté. Si vous êtes passé par exemple par iTunes, n'oubliez pas de passer donc sur le site fan-f1.com sur l'article concernant le SAV de la F1, le mag du 6 juin. Voilà, on va passer aux citations.
Mais moi j'ai un peu plus ou moins grillé la mienne tantôt, c'était celle d'Helmut Marko qui fait avec le fond plat, de toute façon on n'avait pas l'intention de s'en servir, ça fait un peu tu m'as piqué mes billes mais je m'en fous, nanananer quoi, tu vois. Quand j'ai tapé cet article, ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'ai vu le titre sur...
Surtout Helmut Marko, tu m'as piqué mes billes quand tu sais qu'il lui manque un oeil, je pense que...
Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais sous cette taille.
J'en ai une qui concerne aussi les yeux, enfin, qui concerne un œil. Je dois dire que cela m'a arraché une petite larme. C'est Rose Brown qui était
sur la pole de Schumacher.
Ouais, qui est voilà, sentimental. Voilà, ça m'a arraché une petite larme.
Ah moi ça m'a déçu qu'il y ait une pénalité, franchement. Pourtant elle est justifiée hein, sur le Barcelone, hein, il y a une pénalité qui mérite d'avoir, mais. Le voir faire la pole juste derrière, enfin ça m'a. Tant je suis mais pas un fan de Schumacher, hein.
C'est à l'image de sa saison, quoi.
Donc, bah oui, non, il a pas de
fait bien derrière, c'est gâché. Quoi.
Ouais.
Ouais, il va disputer le prix du chat noir avec Hamilton. Ils sont concurrents, oh, ça va être sérieux, ça.
Non, Hamilton, il est pas victime d'un chat noir, il est victime de son équipe. C'est pas pareil.
Ouais. Dino.
Moi, c'est une citation de Felipe Massa dans Autobild qui dit « J'ai la possibilité de rester chez Ferrari, mais tout dépendra des résultats que je ferai à partir de maintenant. Pour le moment, je n'ai pas d'idée de là où je serai l'année prochaine. Tout ce que je souhaite, c'est rester en Formule 1 dans une écurie compétitive. Si ça ne devait pas arriver et que je devais finir au sein d'une écurie mineure, dans ce cas, je ne sais pas si je continuerai de conduire en Formule 1. » Grosso modo, c'est « soit j'ai un top team, soit je me barre. » Et s'il se fait virer de chez Ferrari, je suis pas sûr qu'un top team se jette sur lui.
Ça reste quand même très vague, on sent tout c'est pas quoi qu'il arrive, non plus, qui va lui arriver, hein.
Quoi qu'il arrive, il faut qu'il fasse des bons résultats maintenant. Il a remontré quelque chose à Montréal, moi. À Monaco, mais historiquement, c'est un circuit qui lui convient bien. Il va falloir qu'il confirme au Canada et qu'il continue sur cette lancée-là tout le reste de la saison pour ramener des points à Ferrari, qui est en tête du championnat pilote et qui est un peu en retrait au constructeur.
D'ailleurs, au Canada, il va utiliser les réglages de Monaco.
C'est pas gagné, ça. Alors, hein.
Alors ça m'intéresse beaucoup de savoir quel compromis il va trouver, parce que et voilà, c'est tout le monde dit oh Monaco, il faut beaucoup d'appui, et Canada ils disent oh Canada il faut pas beaucoup
d'appui. Faut des bons freins surtout.
Voilà.
Faut une voiture rapide, enfin partout une voiture rapide, mais une bonne vitesse de pointe.
Mais c'est quand même c'est quand même décevant quoi. Moi je m'attendais quand même un petit peu mieux de sa part, c'est sur le fait de si j'ai pas une bonne écurie, j'arrête. Moi je pensais qu'il avait au moins la passion de courir. C'est vrai que on a vu des trous.
Oui mais quand t'as été quand t'as été dans une bonne équipe, parce qu'il a déjà fait des plus petites équipes, il a été chez Sauber. Mais quand t'as atteint chez Ferrari, que tu t'es battu pour le championnat du monde, quel est l'intérêt, même si tu aimes piloter en Formule 1, quel est l'intérêt de redescendre?
Mais c'est vrai que ça en dit beaucoup sur sa détermination, enfin sur sa
détermination,
sa détermination et sur sa morale.
Il a pivoté pendant plusieurs années dans une équipe de fond de grille comme le font certains, quoi.
Mais indirectement,
un volant chez Sauber, il le prend pas.
Indirectement, le message que ça envoie, c'est que si j'ai pas une bonne voiture, j'ai pas envie de me casser le cul.
Ouais, exactement.
Donc, grosso modo, c'est, chez Ferrari, je fais rien en ce moment parce que, j'ai pas une bonne voiture. Oui, mais en même temps, c'est justement quand t'as pas une bonne voiture, faut que tu fasses quelque chose. Ce que fait Alonso. Donc, je suis pas sûr que derrière, les équipes aient forcément envie de se jeter sur un pilote qui, de toute façon, s'il a pas une top voiture.
Mais là, ça paraît compliqué, hein.
Ah bah là c'est
le genre de déclaration très dangereuse.
Bah oui.
C'est le genre de déclaration qu'aurait pu dire Rubens Barrichello et que derrière il dit non mais en fait je voulais pas dire
ouais,
ça.
Barrichello il a tout dit dans sa carrière Barrichello.
Oui. Je trouve que Force India est une bonne équipe. Je suis content de participer à ce défi. Voilà. Enfin il a 31 ans. Moi, sincèrement partir à la retraite à 31 ans en Formule 1 alors que il y a des challenges qui peuvent être intéressants. J'en parle dans l'article sur Fan F1. Pourquoi pas Sauber, pourquoi pas Force India et compagnie qui pourraient lui permettre de regagner la confiance, de se relancer et peut-être de se faire remarquer par une équipe qui dirait bah tiens en fait le petit Felipe, parce que personne va l'engager à la fin de saison, enfin dans les top teams, dans les 5 personne va le prendre, enfin je vois pas qui pourrait se dire on va prendre Massa.
Bah, ou alors Ferrari, il explose et Ferrari le garde, mais
oui voilà,
c'est surprenant quand même.
Et c'est ce qui commence à me faire peur, hein. C'est ce que je commence à craindre.
Alors moi de toute façon je maintiens que 2013 c'est Perez, mais c'est mon pari sur l'avenir, ça.
2013, c'est Perez.
C'est bien,
c'est comme en 2012.
Si les candidats quelque chose l'an prochain, c'est nickel.
Perez 2013, c'est à vous le, en 2012, on garde tout, sauf les choses.
Steph Core, t'as une citation?
Ouais, celle que Dino vient de donner.
Elle est bien, t'as vu, hein.
Ah ouais, non, elle était parfaite, quoi. Parce que, justement, ouais, le fait même de pas être très motivé pour des équipes mineures, ouais, ça m'avait choqué. Mais, et donc, là, je suis en train de taper divers noms en cherchant.
Bah, tu peux prendre celle d'Alonso qui le soutient.
On dit
alors,
ça.
Alors, Steph Core, tu as une citation?
Oui, j'en ai une. C'est celle de Gerhard Berger. Elle date un peu du mois de mai, mais c'était sur le fait de dire que les pneus décident de tout, c'est absurde. Et comment dire, je suis d'accord dans une certaine partie que les pneus décident tout, mais ils ont quand même une grosse influence. On peut le voir cette saison et depuis deux saisons et l'arrivée de Pirelli, que quand même les pneus ont une grosse influence. Et je dois avouer, j'ai mon petit côté réac, mais que ça a tendance quand même à m'énerver quand je vois le système des pneumatiques en qualification, qu'on a une nouvelle personne qui veut s'intéresser à la F1 et qu'on commence à lui expliquer qu'il sort pas parce qu'il veut conserver son train de pneus, parce qu'il doit conserver un tendre, pas trop rodé, pas trop attaqué pour pouvoir attaquer la course, que ça va lui faciliter le relais, pouvoir comme ça avoir une stratégie différente des autres pilotes. On te regarde avec des yeux ronds en disant mais c'est devenu quoi la F1? Le mec il se met pas au départ, il file et voilà quoi. Peu importe le type de pneus, mais encore la simulation des changements type tendre, dur, durant la course, ça je peux comprendre. Le fait d'avoir des pneus rodés plus ou moins usés entre les qualifications et la course, là j'ai un petit peu mal à simuler et je me rends compte que les gens ont aussi un petit peu de mal à simuler. Et là on se rend compte que même sur les voitures, celles qui ont quand même un avantage, c'est celles qui usent moins de pneus. Et donc il y a quand même une grosse incidence des pneumatiques sur la F1.
Oui, mais ça, il y avait déjà avant. À l'époque où il y avait les pneus Michelin, les pneus Bridgestone, en fonction de la température, c'était les voitures équipées de Michelin qui marchaient bien.
Et du type
quand
de
faisait chaud essentiellement. Ou quand il faisait un peu plus frais, c'était les Bridgestone. Donc ici, le fait est qu'on a le même manufacturier pour tout le monde et que du coup, les équipes doivent faire avec ce type de pneus-là et que c'est à elles de trouver le truc.
Ah, et que et le pneu, bah, c'est le même pour tout le monde, donc finalement...
Et je disais pour ça, mais même moi, à la période de Bridgestone, Michelin ou autre, j'appréciais pas réellement ça. Voilà, après, c'est mon petit côté. Moi, j'ai, comment dire, la F1, je l'ai connue qu'avec un seul type de train, de pneus au départ. Voilà, échange et on repart. Parfois, je trouve ça un petit peu, ouais, voilà, ça tente quand même un petit peu à me faire réagir. Et surtout.
Il y a quand même eu une époque dans les années 80 où t'avais des pneus. Enfin, moi, je me rappelle de la course de Watson à Long Beach en 83, où, enfin, je comprenais pas les commentaires parce que t'avais quasiment 5, 6, 7, 8 types de pneus différents. Enfin, chaque écurie pouvait choisir un peu les pneus qu'il voulait.
Bah, sur Autosport cette semaine, dans la partie, payante, il y a un article, j'ai lu dans les grandes lignes, mais où il revient sur le Grand Prix de Monaco 86, où apparemment, avec les pneus, c'était une loterie, mais autre chose que ce qu'on connaît cette année en début de saison. Donc, on fait beaucoup de foin avec les pneus, alors que finalement, ça a toujours été. C'est le premier, la première chose avec la voiture, c'est le seul contact de la voiture avec le sol. Donc, forcément, ouais, que ça a une importance capitale.
Non, ouais, c'est un incident. Après, je dis moi, ce que je me rends compte, c'est les difficultés parfois à faire comprendre aux gens. T'as quelqu'un avec toi qui regarde le Grand Prix, qui dit, ouais, t'as vu, t'as reconnu comment est-ce qu'il remonte et tout, et toi, tu regardes blasé en disant, mais non, il vient de prendre un train tendre et l'autre, il est en dur, il est sur la fin de course de
ses pneus, c'est pour ça qu'il remonte. Effectivement, et là, au niveau des stratégies, parfois, il faut réussir à suivre. Si tu prends la course en cours de route, t'es perdu. Je suis d'accord.
Et c'est ça qui est parfois un peu frustrant pour les nouveaux d'essayer de rentrer dans la F1 ou d'attirer des gens à s'y intéresser. Il y a cette petite difficulté là que parfois je trouve un petit peu embêtant. Mais
oui, mais c'est comme le hors-jeu en football, c'est le genre de truc, ça fait plaisir de passer 3/4 d'heure à l'expliquer en sachant que le mec à la fin il n'aura toujours rien compris.
Sauf que moi mes pneus j'ai compris.
Il y a ce petit côté exclusif quoi, c'est que faut vraiment être fan de Formule 1 pour comprendre les pneus. Donc c'est comme ça un peu que tu te reconnais en tant que fan quand tu commences à avoir ce genre de discussion et que tout le monde se comprend, sauf les nouveaux. Tu dis voilà, nous on est des vrais fans parce que nous on a compris.
C'est vrai que ça garde cette marque d'exclusivité, mais
non. Tu peux briller en société.
Non, on te regarde comme un. Imagine un repas de famille où tu es en train de parler, d'expliquer un train de pneus comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je t'assure que t'as toute la table.
Imagine un repas de famille. Tu parles Formule 1 déjà.
Ça va.
T'as de la chance de vivre. Non,
ça m'arrive.
D'avoir des parents, voilà, c'est.
Mais.
Ouais, quand je parle Formule 1, j'ai l'impression d'être un extraterrestre.
Non, moi je parle de Keke Rosberg avec mon grand-père de 92 ans. C'est très normal.
Oui, voilà. T'allais chercher des pilotes.
Mais non, mais même les nouveaux. Même les nouveaux.
Ah, il connaît Nico Rosberg.
Ah, si, je lui avais envoyé un SMS avant de partir à Barcelone pour lui dire que je faisais une interview de Kovalainen. Et il m'a dit dis-lui salut de ma part. Ça m'a fait rire. Non, mais il voyait bien qui c'est.
Et alors, tu l'as dit ou pas?
Bah non, parce que si mon grand-père connaît Kovalainen ne connaît pas mon grand-père, donc ça sert à rien. C'est triste.
Moi, j'aurais adoré cette question dans l'interview. Vous avez un bisou de mon grand-père, est-ce que vous le connaissez?
Ouais, non, mais j'avais plus le temps. Déjà, j'ai dû presser pour faire celle sur Angry Birds. Je voulais la poser, celle-là. Ça l'a fait rire, d'ailleurs. Mais...
On va passer à la suite, et c'est l'heure du répondeur, Dino.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Donc, le répondeur du SAV, nous avons reçu deux questions. Une première question de Clément, et qui nous envoie la question suivante. Je me permets de poser une question dans cette rubrique très utile lorsqu'on ne trouve pas de réponse sur Internet. C'est vrai que c'est très utile. D'ailleurs, on peut vous signaler que bientôt sur le site savf1.fr, vous pourrez retrouver les questions une par une dans une rubrique spéciale. Comme ça, vous pourrez, le petit répondeur, vous pourrez, tiens, à cette question-là, je veux l'écouter, vous pourrez choisir votre question. Il faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Juste avant le départ d'un Grand Prix, les pilotes effectuent un tour pour chauffer leurs pneumatiques avant de s'immobiliser une dernière fois sur la grille de départ. Que se passe-t-il si un pilote rate son emplacement, s'il se trompe ou dépasse le marquage? Les Formule 1 possèdent-elles une marche arrière ou alors les pilotes effectuent-ils un nouveau tour? C'est une bonne question, Clément, et je vais y répondre.
C'est une belle question.
C'est une très belle question, effectivement.
Alors, concernant les départs, donc effectivement, les pilotes font leur tour de chauffe. Ça peut arriver qu'ils ratent leur emplacement. Maintenant, ils sont quand même très habitués. Ils font les arrêts au stand, ils en font plusieurs dans le week-end où ils savent prendre leur marque et compagnie. Donc, c'est quand même très rare quand ils les marquent. Ça peut arriver. On se rappelle par exemple du cas de Felipe Massa en 2010 au Grand Prix de Belgique, où il a raté ses marques au point d'avoir la voiture qui avait tout le train avant
devant la ligne blanche de son emplacement de départ. Voilà, donc on s'en est pas rendu compte sur le coup, mais en fait c'est parce qu'un vidéaste amateur sur internet avait publié une vidéo où on voyait clairement que les roues de la Ferrari étaient devant la ligne blanche, ce qui normalement n'est pas normal. La FIA avait diligenté une enquête parce que il faut savoir que les voitures sont équipées d'un transpondeur qui donc en 2010 était situé à 800 mm à l'arrière de l'axe central du train avant, grosso modo au niveau des genoux du pilote. Donc il y a un transpondeur à cet endroit-là, et sous la piste, sous le tarmac, il y a un récepteur. Voilà, donc sous chaque emplacement, il y a un petit récepteur. Et au moment du départ, donc quand la voiture se stationne, le transpondeur envoie un petit message au récepteur, le reçoit, on calcule le temps, et donc on arrive à évaluer la distance, donc du coup, à situer à peu près où se trouve la voiture. Il y a une sorte de marge qui est définie. C'est très technique, mais voilà. Il y a une sorte de marge qui est définie. Et donc, si la voiture n'est pas correctement placée, théoriquement, il y a un signal d'alarme qui apparaît sur la console du directeur de course, qui est normalement Charlie Whiting, qui voit la grille devant lui. Et donc, du coup, dans ce cas-là, soit on refait faire un tour de grille, soit on laisse partir la voiture tout en lui disant, tout en se mettant en tête que derrière elle va prendre une pénalité, un drive-thru ou un stop-and-go. Dans le cas de Massa, comme il y a eu apparemment un problème de communication avec le transpondeur et compagnie, il n'y avait pas eu de pénalité. De toute façon, il n'y en aurait pas eu puisque les résultats avaient été entérinés. C'est le charme de la F1, c'est quand le résultat il est entériné, on peut plus revenir dessus. C'est pour ça que théoriquement Red Bull Vettel et Weber ne perdront pas leur victoire à Bahreïn et Monaco puisque c'est entériné. Hein, donc même si la voiture elle est illégale,
voilà. C'est entériné. Si c'est mis dans une terrine, c'est bon.
Et donc dans ce cas-là, il y a pas de pénalité. Et comme je l'ai dit au début, c'est quand même très rare. Enfin, c'est très rare et souvent c'est involontaire. On peut aussi comprendre qu'il y ait des circonstances, parfois une piste un peu glissante, une plaque d'huile et compagnie. Donc voilà. Je n'ai jamais vu d'expérience de pilote faire une marche arrière sur une grille de départ, tout simplement parce que les Formule 1 ont bien évidemment une marche arrière, c'est obligé par règlement. Hein, ils ont une marche arrière. Sauf que comme la marche arrière, on s'en sert un petit peu quand la situation est mal embarquée. C'est pas forcément le rapport de boîte qui a le plus d'importance pour les ingénieurs. Donc du coup, c'est généralement celui sur lequel on gagne le plus de grammes, où on fait le moins d'efforts. À tel point que parfois il y avait moi j'ai toujours entendu dire que quand on passait la marche arrière, on savait pas si on pourrait la repasser une deuxième fois tellement le pignon de la marche arrière est petit. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut quand même des trucs solides. Mais c'est très rare qu'on passe la marche arrière, et en plus ça constitue plus un danger sur la grille de départ de faire une marche arrière alors que les voitures sont en train de s'installer et que le départ peut être donné, de faire une marche arrière pour revenir. Donc le pilote, s'il voit qu'il s'est mal placé, il s'est mal placé et il sait que il y a de fortes chances qu'il se prenne une pénalité. Donc c'est pas de bol. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire une marche arrière sur une grille?
Non, j'ai pas mémoire, non.
Non, moi non.
Par contre, c'est vrai que parfois ils sont un peu limite, ça parfois on le voit. Ce qui est souvent d'ailleurs courant, c'est pas tant, s'ils sont plus ou moins avancés. Parfois ce qui est le plus visible, c'est qu'ils sont parfois un petit peu de travers.
Oui. Bah Rosberg à Monaco.
Voilà.
Bel exemple. Hein. On l'a bien vu qu'il voulait absolument essayer de sauter
à Monaco,
sur.
Ça c'est quasiment traditionnel. Enfin à Monaco, tu peux regarder, t'as toujours une ligne qui est bien droite et l'autre qui est toujours un petit peu en épi.
Bah Schumacher faisait ça régulièrement aussi parce que on s'en souvient qu'il plongeait souvent sur son adversaire.
Donc là aussi,
j'étais souvent un peu de travers. Hein.
On va dire qu'au niveau de l'angle, s'il y a de voir un angle plus ou moins autorisé.
Et en fait, alors moi, la manière dont je le comprends, c'est que en fait, par rapport au capteur qu'il y a au sol, il y a une zone qui est définie dans laquelle doit se trouver le transpondeur. Si le transpondeur est pas dans la zone, c'est que le pilote est mal placé. Si le
transpondeur parce qu'ils peuvent pas se mettre non plus à 90 degrés, tu vois. C'est...
Oui, voilà. Non. Ils pourraient essayer.
Parce qu'ils seraient toujours dans la zone du transpondeur, hein. Mais
voilà. Mais après, est-ce que la FIA a besoin de faire une règle pour un truc?
Non.
À noter que d'ailleurs le transpondeur, moi j'ai trouvé en faisant un petit peu de recherche sur internet, il y avait des systèmes de départ. On suppose qu'à une certaine époque, Benetton avait réussi en fait à calibrer son système de démarrage parce que soi-disant que le transpondeur ne s'activait que quand commençait la séquence des feux rouges, et la séquence elle est très minutée, hein, c'est une seconde, puis après il y a vraiment du temps. Et donc ils avaient paramétré la voiture pour que dès que le transpondeur s'allumait, ça envoyait un signal et ça déclenchait quasiment automatiquement le départ.
Voilà, ce qui fait qu'ils avaient le bon départ. Alors après, bon, ça c'est des on-dit, des rumeurs techniques, on n'a jamais réussi à prouver ou faire la moindre investigation sur ce sujet-là, donc du coup on peut rien dire. Ça serait pas étonnant de la part d'une équipe.
Une autre question, Dino?
Donc ensuite, une question de Adelin qui nous dit hello.
Hello.
En ce qui concerne les départs de course, est-ce que ce sont les pilotes qui enfoncent l'accélérateur à l'extinction des feux, ou bien les voitures sont-elles bloquées pour éviter tout faux départ? On remarquera que quand même les sujets se ressemblent. Ça fait plusieurs émissions que les gens, il y a une sorte de télépathie, et souvent c'est un peu les mêmes sujets.
La feuille.
Mais sous des angles différents.
Ah ouais, c'est pas la même chose. Non.
Et Steph Core, je crois que tu nous as préparé cette question.
Ouais. Dès que Gus Gus veut bien répondre, décroche. Non, j'ai exactement trouvé l'explication. Donc, à la base, c'est déjà une excellente question. Et donc,
comment il fait son fab? Tu n'as pas fait la généalogie du nom Adelin?
Ah non. Par contre,
ça c'est sa spécialité. Laissons-le.
Exactement. Chacun a son gimmick et je lui laisserai volontiers. Donc, il faut savoir que la procédure de départ d'une Formule 1 est conditionnée par beaucoup de facteurs. On pourrait croire que c'est simplement le pilote qui a l'interaction directement au départ, et en fin de compte, le pilote n'a que 30% à peu près d'importance sur le départ. Sa plus grosse importance est sur le temps de réaction. Alors je vais vous parler du départ en lui-même et du processus de démarrage. Il faut savoir que la personne la plus importante lors du démarrage, c'est l'ingénieur de piste. Lui va avoir toute une procédure à suivre pour effectuer et à ce que la F1 effectue un démarrage le plus parfait possible. Il va contrôler la température du moteur, la température des pneus, et à partir de différentes données, température de l'embrayage, température de la piste, il va pouvoir effectuer un réglage sur la cartographie de l'embrayage pour permettre un départ le plus rapide possible et le plus homogène possible pour éviter tout patinage. Donc, lorsque vous voyez dans le tour de chauffe juste avant le placement gris, les pilotes effectuer tout un processus de burn-out, de départ accéléré sur certains endroits de la piste, il faut savoir que tout cela est réglé auparavant dans les stands et que chaque burn-out a été paramétré pour pouvoir permettre à la voiture de chauffer, d'être dans les conditions optimales. Donc, une fois que le pilote arrive directement à son emplacement, l'ingénieur va vérifier les différents paramètres, ajuster la cartographie de l'embrayage et l'envoyer à la voiture. L'action du pilote va être de maintenir à tour, de modifier sa cartographie en fonction de l'information faite par son ingénieur. Et donc, sur son volant, il a un paramétrage de réglage, un petit bouton indiquant la cartographie 1, 2, 3. Il paramètre selon l'indication de l'ingénieur. Et ensuite, il n'a qu'à maintenir les deux palettes qui lui servent d'embrayage 1 et embrayage 2. Il y a deux embrayages. Le premier pour le démarrage et l'enclenchement de l'embrayage. Et le deuxième sert, en fin de compte, en anti-calage. Évite à la voiture d'avoir à caler sur la grille. Et donc, son importance, lui, va être simplement d'avoir le temps de réaction le plus court. Mais, la pédale, réglementairement, celle-ci ne doit pas être contrôlée informatiquement. C'est-à-dire que le pilote doit contrôler la pression sur la pédale de façon autonome. Auparavant, on a eu des systèmes d'électronique sans câble et sur lesquels on pouvait paramétrer, donc le pilote pouvait avoir la pédale à fond. Et désormais, celui-ci cale sa cartographie, appuie sur la pédale de façon limitée pour atteindre le régime moteur. Certains sous-entendraient que la cartographie de l'embrayage ferait que les pilotes peuvent appuyer à fond, mais comme on n'a pas de moyen de contrôle direct, même la FIA n'en a pas intégré au véhicule, on peut pas le vérifier. Mais en l'occurrence, dans le doute, nous disons que les pilotes n'enfoncent pas littéralement à fond la pédale. Et si jamais ils ratent la procédure de démarrage, ils sont obligés de relancer tout le système, c'est-à-dire, on peut le voir, de réembrayer sur la palette 2 pour éviter le calage. Et en fin de compte, ça relance la cartographie et ils se laissent aller. Il faut savoir que même sur les temps de démarrage, on a les régimes moteurs, mais pour éviter justement un patinage et d'avoir un grip des plus performants, la plupart du temps, on conseille aux pilotes une vitesse à atteindre pour faire le changement de rapport. Sur certains circuits, on va leur dire tu montes à 100 et à partir de 100, tu peux passer la deuxième, alors que la première peut très bien monter à 30. Mais ce qu'on cherche, c'est le couple et le grip maximal. Donc voilà la façon dont se passe une procédure de départ. C'est l'importance est donnée à l'ingénieur et non au pilote en lui-même. On pourrait avoir des temps de réaction qui pourraient être beaucoup plus rapides via un pilote. Il a été prouvé que les pilotes pouvaient être plus rapides que la procédure de départ, on va pas dire automatisée, mais quasi automatisée actuelle. Mais par contre, le défaut, c'est que, bah, comme tout homme, on ne peut pas reproduire 100 fois et à la perfection et de fiabiliser un départ parfait. Donc, on préfère faire confiance quand même à un système quasi automatisé pour améliorer la performance et aider au départ des F1.
Mais pour revenir sur le rôle de l'ingénieur, c'est je crois que c'est Grosjean. Après les oui. deux premiers Grands Prix, ou peut-être les trois premiers, parce que après chaque Grand Prix, il poste une vidéo sur Internet et il remerciait son ingénieur pour ses excellents départs. Il lui avait donné un surnom, c'était il y avait Rocket dedans, mais je sais plus le pseudo complet, mais ça montre encore une fois le rôle de l'ingénieur dans la procédure
mais
de
d'ailleurs,
départ.
Il a expliqué pour son départ à Monaco que, enfin, quand tu parles justement de préparer l'embrayage, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les derniers hectomètres du tour de chauffe en fonction de tous les paramètres. Il décide de régler l'embrayage de telle manière. Et Romain Grosjean a dit, on avait étudié trois options, et en fait, ils ont tout simplement opté pour la mauvaise option au moment du départ, donc ce qui explique entre guillemets son mauvais départ et peut-être éventuellement aussi un mauvais départ. C'est pour ça que parler d'un système de démarrage, enfin le système de démarrage, il n'existe pas quoi. Il n'y a pas un système qui est performant, c'est juste l'ingénieur, comme tu le dis, Dave Gore, c'est l'ingénieur qui est performant ou pas et qui fait que plus souvent, lui, il trouve le bon réglage que d'autres.
Mais c'est vraiment un travail exceptionnel qu'il a fourni parce que il assimile les données de des données vraiment importantes et exceptionnelles durant tout le long, d'assimiler, d'avoir le parfait réglage au moment. Et normalement, le transfert de données, le choix des données est fait vraiment sur les 3-4 derniers mètres au moment où la voiture vient se poser sur la grille de départ. Et là, l'ingénieur fait son choix de cartographie, informe directement le pilote. Et même moi, c'est vrai qu'on voit ça d'un œil extérieur et quand on n'est pas cette procédure-là, on ne pense pas que, en fin de compte, toute la procédure se fait des stands, même durant le tour de chauffe. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant, quoi.
Mais le final, ça reste le pilote.
Ouais, sur le temps de réaction, c'est la chose primordiale.
C'est le meilleur compromis, en fait. Le pilote a quand même son rôle.
Voilà,
et,
c'est pas automatisé.
Un pilote
mais...
peut foirer un départ.
Voilà.
Oui.
Ce qu'on demande quand même, c'est qu'un pilote puisse foirer.
Mais en même temps, quand il foire, par exemple, on voit plus les voitures patiner comme des dingues, par exemple.
Et on voit beaucoup moins de voitures qui sont immobilisées sur la grille parce qu'ils ont foiré leur départ.
Désormais qu'on le verra pas.
Ce qui améliore la sécurité et le spectacle aussi.
On verra pas de voitures calées, sur une cause de démarrage anticipé ou sur une erreur du pilote. S'il y a une immobilisation de la voiture, ça sera en l'occurrence un défaut mécanique qui a stoppé la voiture.
D'ailleurs, preuve aussi du temps de réaction, c'est qu'on a vu, c'était Alonso l'an dernier, griller un départ. Oui, si c'était que de l'informatique, ça n'arriverait pas.
Non, c'est clair. Mais on aurait pu avoir des procédures dans les années 2000, on avait des procédures qui étaient encore un petit peu plus optimisées parce qu'on avait la possibilité justement d'avoir l'accélérateur électronique. Donc pédale à fond, et en plus on avait des systèmes de cartographie de boîtes automatisées qui passaient les rapports automatiquement.
C'était pilotes, puis à fond, puis tu relâches, puis voilà.
Et t'arrivais même sur les virages ou les passages de rapport, il appuyait une fois et descendait automatiquement et autres. Donc c'était des départs qui étaient encore un petit peu plus performants que maintenant.
Mais c'est là où on arrive à ce que je disais la dernière fois en termes d'innovation, où il y a des secteurs où on devrait interdire quasiment aux équipes d'innover en leur donnant un système standard. La procédure de départ, il y a une époque où des mecs ils développaient des systèmes super complexes pour assurer un bon départ. C'est pas non plus ce qu'on demande de voir. Tout le monde part avec la même base, même principe de base pour le départ. Ça se fait sur la différence en génie de l'ingénieur et sur la capacité du pilote, ce qui se fait actuellement. Ça marche très bien et on voit des vrais départs. Des départs PlayStation, oui. Le mec il a juste à tourner le volant pour bien se placer dans la file quoi.
Mais c'est vrai que s'il pouvait avoir un vrai contrôle sur l'embrayage, je trouve ça pas plus mal quoi.
Bah après c'est le risque de calage.
Oui.
Il faudrait un système anti-calage.
Ah bah le système anti-calage tu l'aurais tout autant, mais le fait de pas avoir à instaurer une cartographie et que ce soit le pilote qui pilote respecte bien la procédure et qu'on a la température, on sait déjà quelle programmation on peut mettre dans la voiture et même s'amuser à prendre un petit peu de risque sur une baisse de température de la piste ou autre, ou sur une erreur.
Il peut pas mettre une programmation d'embrayage standard pour tout le monde, imposer que tout le monde...
On pourrait, tout à fait.
Ou est-ce que ça a une influence sur les rapports de boîte après, pendant la course ou
Ouais, mais est-ce que ça dépend pas du moteur aussi?
Ah bah,
ouais. Alors je tiens à signaler, comme l'a fait Stafford tout à l'heure, que tous les gens qui arrivent pour découvrir la Formule 1 devaient ne rien piger de ce qu'on vient de dire.
Mais en l'occurrence, la température de l'embrayage est quelque chose qui est surveillé durant la course. On a des modifications de rapports et de cartographie qui sont faits aussi bien pour limiter l'usure des pneumatiques que de comment dire que sur le comportement, même là une température surtout désormais on a ce qu'on appelle les systèmes double embrayage et on a essayé de réduire la taille au minimum et on avait chez Ferrari on avait connu le souci sur le début de ces boîtes là sur le fait qu'elle chauffait beaucoup. Et maintenant, les ingénieurs se penchent beaucoup dessus pour que l'embrayage tienne et vont demander aux pilotes de changer leur cartographie pour abaisser un petit peu le rendement et le grip de la voiture, mais par contre, abaisser aussi la température de l'embrayage.
C'est tout, Dino, pour le répondeur ?
Oui, c'est tout.
Donc, on rappelle l'adresse, si vous souhaitez poser une question SAV, c'est tout simplement, c'est répondeur@savf1.fr.
Vous avez peut-être la chance d'avoir, grâce à Fab, si Fab est là,
ouais,
d'avoir une petite note sur votre nom.
Ça, c'est irremplaçable.
Ça n'a pas de prix.
Voilà. On arrive à la fin de l'émission. On rappelle qu'il y a, comme d'habitude, une question du concours Top à position en cours. C'est quoi déjà, Dino ?
C'est la voiture de sécurité a fait sa première apparition en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Canada. C'était 73, je crois. De quelle voiture s'agissait-il et qui en était le pilote ? Pour répondre, c'est concours@savf1.fr. Vous avez jusqu'à mardi prochain, 18h, pour répondre.
Ouais.
Et à noter que si vous voulez aussi participer à l'émission, comme dernièrement Alexane, vous pouvez le faire en posant candidature à contact@savf1.fr.
Si vous nous écoutez par iTunes, n'oubliez pas, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir.
Oui, parce que le SAV, c'est le Ritz des podcasts de la F1.
Voilà. À noter, puisqu'on a déjà parlé du Grand Prix du Canada, vous savez qu'il doit passer sur TF1, mais en différé. Alors, il y a l'horaire, parce qu'il y a les programmes télé qui sont arrivés. Il nous avait parlé de deuxième partie de soirée. En fait, c'est minuit et demi. Parce que c'est pas juste après la soirée électorale. Non, il y a
les experts avant.
Ou esprit criminel. Voilà, il y a les intercalés, donc c'est minuit et demi.
Oui, parce qu'en fait, ils considèrent que le truc de l'élection, c'est juste le JT qui est plus
long
que d'habitude.
Voilà, exactement.
Mais ce sera sur Fan F1. Profitez-en parce que c'est pas sûr qu'on fasse encore longtemps des lives.
Oui. On arrive à la fin de l'émission. Merci messieurs.
Mais de rien, tout le plaisir était pour moi.
Ce fut effectivement, comme à chaque fois, un vrai plaisir.
Comme d'habitude, n'oubliez pas la F1 sur internet, c'est sûr.
Fan F1. Et quel enthousiasme, les mecs, quoi.
Je manque, tu vois, à chaque fois, je me dis, ouais, ce qui serait classe, c'est qu'ils le disent tous en même temps, que ça fait un truc super classe. Mais
on l'a fait la dernière fois avec Fab, il me semble.
Oui.
Alors, on va le faire, les mecs. Quand il dit, on compte 1, 2, 3, et on dit fanf1.com.
N'oubliez pas, la F1 sur internet, c'est sûr.
1, 2, 3,
fanf1.com.
D'ici la fin de la saison, j'y arriverai. Allez, une bonne course. Ça devrait être pas mal, c'est le Canada.
Ouais, au Canada en général.
Ciao à
tous.
Ouais,
j'aime. Ciao.
Salut. Ciao.